Je vais couper le stream. Je suis trop. J'ai trop donné là. Je suis épuisé. Il est 9h24. Je vais me coucher. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est un plaisir. tout était à l'unisson. Vous savez, parfois les choses s'alignent. D'ailleurs, ce que j'ai pas vérifié, c'est le niveau de son ce matin. Je vais raconter cette histoire de. Oui, il a une petite photo. J'ai changé l'affiche. Ah, c'est bon, le son est bon. Oui, j'ai changé l'affiche. Oui, nouvelle émote. Oui, j'ai un petit peu changé l'affiche. Merci Sugar de m'avoir envoyé l'émote d'ailleurs. Tout s'aligne, parfois les choses s'alignent, vous savez. Je suis sur le point de vous révéler dans quelques jours, je l'espère, mon plus grand projet depuis 6 ans. Alors je viens d'annoncer déjà le festival MVP en avril, pour l'exclamation festival qui est déjà un truc de fou. Mais le truc qui arrive là, c'est waouh, il y a ça, il y a l'énergie que vous mettez là le matin. Incroyable, enfin, chaque stream en vrai. La musique là qui était cool. Oui, oui, t'as raison, en parlant de projet, t'as raison.
Parce que c'est notre projet.
Dans quelques jours, je vais être dans ce mode là. Je vais venir en stream, je pense. Voilà. Je vais vous annoncer ce projet de fou là et je serai en mode.
Parce que c'est notre projet.
Plus gros encore que la campagne présidentielle. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Valo Carrière Pro. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Tu organises des Worlds de Valorant ? Je ne dis rien. Je ne suis pas sous serment ici. Hein, je n'ai rien juré. Voilà, donc, je ne répondrai pas à vos questions. Bon, c'est pas la peine, monsieur le rapporteur, de poser la même question 10 fois. Je ne répondrai pas. Par contre, je peux vous transmettre les éléments par écrit si vous le souhaitez. donc, tout s'aligne. Et puis, il y a un nouveau truc. Rigolo là parce que vous savez, bon, il y a un petit truc marrant avec l'histoire de la commission. Alors, d'ailleurs, on a eu beaucoup de plaisir déjà à réacter les auditions de la commission de l'Assemblée sur le viol public. C'était vraiment intéressant. Moi, je découvre un peu cet univers. Je trouve que suivre le travail des parlementaires comme ça en live ou en replay, c'est vraiment, littéralement, premier degré, vraiment intéressant. Après il y a eu mon petit passage perso, bon, c'était intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire il y a ce que j'ai dit, il y a ce qui a été compris ou ce que les gens ont voulu comprendre, enfin certaines personnes, et après la manière dont les réseaux sociaux s'en emparent. Et là il y a un côté un peu intéressant et pédagogique. En général, moi je réponds pas trop aux réseaux, et notamment quand démarrent des polémiques, vous savez, c'est parce qu'en fait, on explique don't feed the troll sur Internet, quoi. Et ça sert en général, ça, une polémique non justifiée en général, ça s'arrête au bout de 2 jours ou 3 jours toute seule. Mais là, il y a quand même un truc intéressant parce que je vois certains tweeter, parfois des députés, parfois des gens que tu connais pas, parfois des citoyens et des kidam et qui ont bien le droit de prendre la parole et de s'exprimer. Et puis, il y a aussi des influenceurs, enfin, des gens un peu étranges qui font des techs. Et je regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que je ne réponds pas, mais je vois, je lis. Et vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Un truc qu'on n'a jamais fait. C'est pas ça mon gros projet, mais c'est pas mal. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un live. Pas maintenant. Oui, MMG. Peut-être pas ce soir. Peut-être... Mais c'est ce soir ou demain, samedi, on va regarder tout ça. On va faire un live où on va prendre les 4-5 trucs les plus symboliques qui ont le plus de succès sur les réseaux, sur notamment le réseau du Chétan X, les posts des uns, des autres et parfois même les vidéos. Les farmeurs de likes et de stats. Et on va debunk. Voilà. Voilà, tu vas être repris, tu files le troll. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que bon, là, c'est un peu. Pourquoi je vais répondre cette fois et pourquoi on va faire un truc un peu. Attendez, ça va être fun, on va rigoler en vrai, parce que c'est pas très très dur à debunk en plus. Alors, c'est pas très compliqué, franchement. En 5 minutes, si on veut aller à l'essentiel, sauf que nous, on est sur Twitch, donc on prend le temps, ça peut être debunk. Donc, c'est plus parce que d'abord, il y a une dimension pédagogique. Comment, à l'heure d'Internet, et même pour les jeunes, il y a beaucoup de profs qui font de l'éducation aux médias, tout ça. Comment, à l'heure d'Internet, en fait, des vérités alternatives peuvent émerger sur Internet parce qu'elles, tout simplement, elles sont dites massivement. Et une affirmation, même un mensonge, si elle est dit plein de fois, avec constance, est repris par beaucoup de gens, ça devient une vérité alternative. C'est intéressant. Donc il y a ce travail un peu de pédagogique. Et puis comme je suis aux premières loges et que moi j'ai les infos, je sais ce qui est une information et je sais ce qui est un mensonge. Et puis quelque part, sans utiliser de mots grandiloquents, mais il y a des accusations qui sont graves, qui portent à mon honneur, à mes valeurs. Et en fait, en le faisant, on va le faire en rigolant et sur le ton de l'humour, on va aller voir quand même qui sont ces gens. Et souvent, d'ailleurs, il y a un fil rouge, il y a un lien commun. Il y a un lien commun, c'est un peu une tautologie, non ? C'est un peu redondant. Il y a un lien entre ces personnes, parfois. C'est un peu le même univers, quand même. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant à raconter. Voilà. Sur comment une information émerge aujourd'hui, comment elle se développe, comment elle peut être amplifiée, comment effectivement, si on ne la traite pas, littéralement, elle peut s'arrêter au bout de 2-3 jours. C'est ce que je fais d'habitude. Mais c'est intéressant de voir comment elle naît, comment elle se cristallise, etc. Et souvent, c'est assez fun parce que, bon, souvent, c'est pas souvent, c'est systématiquement, ça manque de fondation, quoi. C'est-à-dire que t'as pas besoin de taper très, très fort dans les fondations, dans les poutres de cet argumentaire pour que ça s'écroule parce que c'est très fragile. Mais je trouve que c'est un peu d'intérêt public de se pencher sur ce cas d'espèce, ce cas d'école, parce qu'en fait, ça permet de comprendre plein de choses aujourd'hui au-delà de ma petite histoire. Voilà. Donc, on fera ça peut-être ce soir, si j'ai du temps, ou samedi, un petit live chill où on ira voir les 4 synthèques les plus symboliques de mon petit tribunal d'internet là, et on va le débunker ensemble dans la bonne humeur, et vous allez voir, ça va être un bon moment. En attendant, toujours dans la bonne humeur, effectivement, une certaine image vous a marqué pendant mes 3h30 d'audition. c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ma tête en mode ça.
Moi, parce que, mais oui, bien sûr, moi, parti.
Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Ça, c'est ma tête en mode. Mais c'est quoi cette question? Voilà, donc. Oui, elle est en miroir, je l'ai inversée parce que regarde, j'ai voulu la mettre dans le petit poster là-haut, Wanted, Dead or Alive, et puis je voulais qu'elle me regarde, donc je l'ai inversée, tu vois. Ah oui, mais attends, on bosse. Ah, donc merci à Sugar qui m'a envoyé la photo. En fait, c'est tout simple, en fait, je suis allé dans Twitch, je ne l'ai même pas traité, je l'ai balancé bim bam, tu vois. Donc je l'ai mise là dans le poster, j'en ai fait une émote ce matin. J'en ai fait une émote. Voilà, et elle est trop chou en vrai. Voilà. Donc, longtemps qu'on n'ait pas mis une émote. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, bonne humeur quoi. Hola, attends, merci Binardo. Hola, desde Barcelona, señor. Qu'est-ce que c'est pas ça? On te suit d'Outre-Pyrénées. Ici l'émission La Mañana es tuya, et on t'appelle Don es tuya. Mais c'est trop gentil. Salut l'Espagne. Ce soir il y a les enfoirés. Ok, formidable, merci Alexandra. Trop bien, les enfoirés. Ça boit un coca dès 9h30? Oui, j'ai mes vis, j'ai beaucoup de vis. Merci beaucoup, j'ai beaucoup de vis. Oh, d'ailleurs, attendez, il faut que j'actualise le point d'exclamation commission en vous mettant le lien YouTube du replay qu'on a fait. Ah, pap. Samuel, il faut que j'aille sur ma propre chaîne en vrai, c'est ça, ouais. Ah, bah je l'ai là. Ok. Il est où le React? Il est où mon React? Vidéo. Le grand React. Oh, ça s'appelle le grand React. Ok, le truc, il fait combien? Il fait 6 heures, je crois. Hop. Alors, Nightbot. Mais oui, j'ai vu. Marcus a raid mon stream. J'ai vu. Ce matin, en allant voir Twitch, j'ai vu qu'on avait raté un raid, ouais. Enfin, j'ai raté un raid. Marcus, arrête ton stream quand tu as cut hier soir, mais sa commu a tenu de te faire passer un message de soutien et des bisous. Pff. Vous savez, j'ai reçu, alors évidemment, je ne vais pas dévoiler les noms, mais j'ai reçu plusieurs messages depuis le début de cette affaire assez rigolote. Je viens de comprendre la blague et les écrous. Parce que j'ai beaucoup de vis. Et Nalfus m'a dit, t'as pas tes écrous. Et j'ai pensé, écrou, prison. Tu vois, mettre à l'écrou. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette polémique encore? Vis, écrou. Vis, écrou, quincaillerie quoi. Ok, joli. Et donc, oui, je vous disais, j'ai reçu quelques messages sympas, d'abord de gens de ce milieu, des gens parfois de hauts responsables de l'audiovisuel public avec qui j'ai travaillé dans le passé ou qui travaillent encore aujourd'hui dans l'audiovisuel public et qui m'ont envoyé des messages sympas. Oui, Michou Lulu, on va parler des gangbangs aussi dans cette revue de presse. Oui, c'est prévu. Ouais, je tease. Oui, on va parler de pâtisserie aussi. Voilà. On va parler de poétique et on va parler de gangbang. Oui, voilà. Ceux qui étaient dans le live hier soir savent pourquoi. Oui, c'est dans l'actu. Oui, je vous l'ai mis l'article. J'ai hésité. Je l'ai mis, je l'ai annulé, je l'ai remis, mais bon. Donc, j'ai reçu des messages très touchants. Oui, vous allez voir, il y a une actualité autour de ce phénomène, on va dire, à Paris. Voilà. Et donc, j'ai reçu quelques messages sympas, et j'ai reçu quelques messages sympas aussi de streamers, de créateurs de contenu. Voilà, très touchants. Alors, j'ai les noms en tête, je ne vais pas vous les citer, bien sûr. Mais en tout cas, merci à Marcus. Bonjour monsieur Etienne, avec votre tête à l'apparence d'un œuf, est-ce que vous prenez votre part de responsabilité de la crise de l'œuf en France? J'ai la ref. Alors, commission. Ok. Alors, le mardi 24 février 7h30, j'ai été convoqué dans la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et les financements du budget public. Je ferai le réacte. J'ai fait le réacte de cette audition. Attention, ça dure plus de 6 heures. Ça dure. Ça dure plus. Ah, il est où le plus? Plus de 6 heures. Ici. Voilà. Hop, point d'exclamation commission. Dans le chat, et normalement ça marche. Vous avez le lien. Le mardi 24 février à 16h30, j'ai été convoqué devant la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement, le financement de l'audiovisuel public. J'ai fait le react de cette audition. Attention, ça dure plus de 6 heures. Ah, ici, 2 points. Boum, je clique. Et profiter ça marche.
Jusqu'à 2000 euros.
Ouais, trop bien. Comment ça, 37 000 vues? 37 000 vues? Mais je deviens un youtubeur ou quoi? 40K? Moi, je sais pas, j'ai marqué 37, moi. Enfin, bref, beaucoup, quoi. Je deviens youtubeur ou quoi? 37K sur une rediff de 6 heures moins de 24 heures, ouais. Je pense que c'est mon meilleur replay. Mais quelle boucle! Salut Clément. Bon voilà, bon, très heureux de vous retrouver en tout cas. J'ai beaucoup de bonne humeur aussi, c'est cool. J'ai reçu beaucoup de mails du coup. Ah oui. N'oubliez pas que les gens pensent qu'on est sur Twitch là. Alors selon certaines sources bien informées, parce qu'il y a des gens sérieux dans notre société qui prépare leur dossier. Alors, sachez que nous pensions être sur Twitch, nous ne sommes pas sur Twitch. Alors, il faut avoir la rêve de cette référence, mais en fait, nous sommes sur YouTube. Et vous n'envoyez pas des messages dans le chat, vous envoyez des mails aux Twitchers, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est une info. Noélinor, rends l'argent, il dit, rends l'argent, Noélinor, il dit, rends l'argent. T'inquiète, après mon petit raid que je vais te faire là, entre maintenant et demain, c'est toi qui vas m'envoyer des sous. Tu vas lâcher ton sub comme un grand, tu vas voir. Oh, pardon, j'avais pas compris. Salut Magikarp. Salut Sauna. Hey, je ne remercie aucun sub ce matin. Rudinateur, merci beaucoup pour le troisième mois. Merci Ferstance pour le Prime. Merci Priscilia BX pour ce deuxième mois. Papy Mana pour ton Prime. Merci FDLC46. Merci pour ce huitième mois. Merci Gigi Paul pour le soutien. Merci Pierre Ja pour l'abonnement. Et Marcus The Boulet, merci pour le raid que j'ai raté hier. Et merci à sa commu. Ah, je vous kiffe. Je dis souvent que je... Salut à mes Brésiens. Je dis souvent que je vis ma meilleure vie ici. Et pourtant, Dieu sait si ma vie d'avant était cool. Là. Mais c'est encore mieux maintenant. Merci le gueuloir. Merci KDA03. Merci la grosse layeuse pour le prime. Bernard Minet, le vrai Bernard Minet. Il y a un pseudo dans le chat qui vient lâcher un bonjour ici. C'est son premier message. Et c'est Bernard Minet. Le vrai Bernard Minet. Enfin. Be your man. Be your man. C'est incroyable. Attends, moi, je suis fan en vrai. Qui n'est pas fan de Bernard Minet? Qu'est-ce qu'on se met? On se met Bioman peut-être, non? Bioman. Attends, c'est trop classe, quoi. Mais... Moitié homme, moitié robot. Oh, incroyable. Il aurait plus de 80 ans, tu crois? Non, Bernard Minet. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Bernard Minet aura toujours 30 ans au maximum, Bernard Minet. Bernard Minet. Tu as Bernard Arnault. T'as rien. T'as Bernard Arnault, t'as Bernard Tapie, Bernard Buffet, Bernard Guetta. Y a pas Bernard Minet dans les premiers trucs? Alors là, c'est vraiment une honte. Bernard Minet, quel âge? 72 ans. Qui disait 80? Alors, plus de 80 ans. Voilà, c'est un enfant, c'est un jeune. Qu'est-ce que vous racontez? Il est trop beau en vrai. Je connais pas trop l'histoire de Bernard Minet, mais il est trop beau en vrai. Tu sens qu'il kiffe ce qu'il fait, j'adore. Moitié homme, moitié. Laisse le générique et après les DMCA que je me prends dans la tête pour les petits avertissements. Dis donc, monsieur Étienne, c'est une chaîne Twitch ou c'est un jukebox que vous faites? Je peux pas. Hein. Tu peux laisser pousser pour tenter cette peu-coup? Alors avant, je n'aurais pas compris cette phrase. Et je comprends que tu parles d'une peu-coup, d'une coupe de cheveux. Ouais. Je vais manquer de matière. Il a une follow? Ah, il a une follow, il est parti? Ah, merde. Il est parti en vrai ou pas? Bernard Minet, merde. Alors, en vrai, moi, je suis premier degré, hein, j'aime beaucoup, moi. Bioman, Bioman. Je l'ai vu en première partie d'un concert d'Ultra Vomit en janvier, c'était quelque chose? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et attends, quelqu'un me dit, attends. Attends, quelqu'un me parlait de son groupe de métal? J'ai vu quelqu'un qui me parlait de ça? Bonjour à tous, salut, c'est le Reprime. Je viens regarder vu qu'il paraît que j'ai payé le lancement de l'émission avec mes impôts. Oui, effectivement, c'est ce que disent plusieurs comptes d'extrême droite sur le réseau du Chétan qui s'appelle X. Mais t'inquiète, on va faire une petite vidéo pour débunker ça cet après-midi ou... pas cet après-midi, ce soir ou demain. Parce que c'est trop rigolo en vrai. T'inquiète, j'espère que tu pourras la consommer. Bernard Minet, Metal Band. Bernard Minet, Metal Band. Quoi? Il a un groupe de métal? Mais attends, mais on me dit rien, moi. Il reprend ses titres en version métal, mais c'est génial! Là, j'ai Capitaine Flamme, là. Mais c'est extraordinaire, mais pourquoi je sais pas ça, moi? Mais du coup, c'est fait avec de l'argent public ou pas? C'est incroyable.
Imaginez pouvoir créer n'importe quoi.
Ah, bah, c'est le concept de ma chaîne Twitch, ça. Il a un peu, il a pas un peu la voix de Johnny? Ton cyberlab et dans ton cosmonef. Mais c'est génial. Mais merci, mais mille merci des gens qui m'ont signalé ça. Mais vous voyez, on est en 2026 et il y a tellement de choses qui existent. Le Clamacoquine qui est écrit, il y a cette frontière infime entre génie et désastre. Je ne sais pas quel côté nous sommes, mais du sous côté du génie, il y a zéro débat. Mais c'est extra... tous ces papas dans la foule, mais cette image est parfaite, quoi. Capitaine Flamme. C'est incroyable, en vrai. C'est fou, non? Ah, le plaisir, quoi. Alors, merci beaucoup. Et mais merci aux personnes qui m'ont signalé ça, quoi. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et il a fait une première partie d'Ultra Vomit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, moi. Bernard Minet, Metal Band, Highway to Merguez Tour. Highway to Merguez Tour. Mais quel bonheur. Oui. Waouh. L'index vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. Ça, j'ai la ref maintenant. J'ai la ref. Oh, c'est incroyable. Bon, encore une belle chose. Non, les Césars, je vous ai rien mis dessus ce matin parce que je sais pas, j'ai vu les articles, je trouve que je pense que les gens qui s'intéressent aux Césars, vous avez les infos, vous avez regardé hier soir ou alors vous avez chopé les infos sur internet. Moi, j'ai rien trouvé de. Je dis pas qu'il n'y avait rien dans les Césars, je dis que les articles, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Sur les Césars, n'était pas fou en vrai. Ouais. Docteur Gromatou, merci de la force que tu donnes à cette communauté. Samuel, rends l'argent! C'est toi qui viendras me filer un sub quand tu verras mon petit debunk qui va arriver dans quelques heures là sur internet. T'inquiète, on va se régaler. C'était pas au Hellfest, c'était au Motoculteur. Ok, incroyable. Incroyable. Bon, 26 minutes. Bon, bah on a fait notre intro, il faut qu'on y aille maintenant. Quelle photo? Ah oui. Il y a une émote aussi. Vous montrez l'émote, les gars? Vous montrez la nouvelle émote? Combien tu prends à préparer ce stream? Oh, il y a 3 heures de lecture à peu près. C'est notre nouvelle émote? Regardez cette émote. Mais c'est le meilleur arc de ma chaîne, hein? Oh, j'adore! Incroyable. Non, et pas d'article sur les as d'or, c'est dommage. C'était la récompense sur les jeux de société, c'est ça, j'ai vu ça hier soir, c'est super intéressant. Le jeu de société, ça c'est un regret ce matin. Le jeu de société, c'est devenu gigantesque. Non, les as d'or, les as AS, comme l'as, la carte, pas A2S, Sugar, vous pensez qu'à ça. C'est les récompenses pour les jeux de société. Les as, on dit un as, les as, pas les a, les as d'or. Et donc oui, j'ai vu ça, c'était en live hier soir, et quand tu vois la place que le jeu de société a pris dans notre pays, on est un des pays, la culture jeu de société est la plus importante, il y a des sorties sans arrêt, c'est vraiment un univers incroyable d'inventivité, de créativité, et effectivement il y a des récompenses hier, et pas un article ce matin, franchement, ouais, un bon article là-dessus, non? C'est passionnant en vrai. C'est un peu comme, de la même manière que l'industrie culturelle du jeu vidéo est sous-exposée dans les médias traditionnels au regard de son importance économique et culturelle, et ben c'est la même chose pour le jeu de société. Ouais. Il y a un react, Ezeltoff, point d'exclamation, commission, t'as tout le react, 6 heures à te taper, bim. Peut-être plus tard, ouais, peut-être demain matin, ouais. Bim le replay. Les médias parlent pas de jeux, non, non. Les médias traditionnels ne parlent pas de jeux vidéo, pas suffisamment au regard de son importance culturelle et économique, quoi. Y a des journaux qui en parlent un petit peu. Libération parle de certains coups de cœur ou de certains vraiment gros succès dans l'univers du jeu vidéo, notamment français, ou alors de coups de cœur de Libé. Les Échos parlent de l'aspect économique du jeu vidéo, beaucoup. C'est à peu près tout en vrai. Oui, Le Monde sur Pixel, mais rarement dans les pages print du Monde. Hein. Sur le site internet du Monde, oui, dans les pages Pixel, oui. Mais c'est pas dans le print, c'est pas mis en avant auprès d'un lectorat qui justement est un lectorat plus traditionnel, plus âgé, qui justement pourrait être un peu accompagné, cultivé sur ces questions de jeux vidéo, tu vois. Donc c'est un peu dommage. Le Monde devrait mettre ça plus en avant, je trouve. Ouais, Xavier Niel s'est ajourné. Ouais, on a rigolé hier soir. On a vu la colère d'ailleurs du président de la commission qui était vraiment furieux que Xavier Niel ait annulé genre 2 heures avant. Et donc ça, je l'attends avec impatience. Sinon, je vous aurais réact ça hier soir, Xavier Niel. Ouais. Mais c'est repoussé en mars. Bon, on y va? On va bosser un peu? Ah, tu vois? Rekim, hello la commu, j'avoue que pour avoir pas mal travaillé en tant que vendeur spé de jeux de société, c'est un peu triste de rien avoir aujourd'hui dans les journaux. Je suis d'accord avec toi. Peut-être demain, peut-être demain. Ah, l'oncle a aussi posté sur le lapin de Niel. Bah oui, Harpy, mais en même temps, écoutez, là c'est pas très compliqué, hein. Vous avez un député qui s'appelle Charles-Henri Alloncle, parti UDR, porte-parole, parti allié au Rassemblement national. Avant la commission, il y a beaucoup des députés. Avant cette fameuse commission, personne ne le connaissait. Enfin, si, ça, ses parents, ses électeurs peut-être. Mais voilà. Et puis subitement, il a trouvé un truc où vraiment, il est énormément mis en avant, et notamment par les réseaux. Donc, en même temps, bon, tu comprends quoi. Tu comprends quoi. Alors après, est-il aujourd'hui davantage influenceur au vu du nombre de posts, hein, allez voir son Instagram, son TikTok et son compte X. Regardez s'il n'a pas un OnlyFans aussi, parce que ça, il a quand même beaucoup de comptes. C'est tous les jours. Hein. Paf, 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 paf. Il poste plus que la plupart des créateurs de contenu français. Hein. Donc oui, il a posté sur ça, ouais. Hey Charles, tu me réinvites quand tu veux. Hein. J'ai adoré la commission, j'ai encore d'autres trucs à te dire. Allez, on y va? On fait la revue de presse? Let's go. Ah, j'ai pas les mots de faut être sub. Ah, je savais pas. Ah oui, les émotes, c'est pour les subs. Ah. À propos de sub, Lilise, merci pour le 44e mois. Caius, Titus, merci pour le 6e mois. Merci pour ton message. Simply Nemo, merci pour le 3e mois. Merci Nat de Laser pour le 2e mois. Merci Le Bourrel pour le prime. Merci Léniat pour le 13e mois. Merci KDA à nouveau pour le 2e mois. Merci la grosse layeuse. Je t'ai pas remercié tout à l'heure, je sais plus. Voilà. On y va? Allez, go. Est-ce que j'ai votre go pour le sommaire? Suspense d'ailleurs, est-ce que ma tablette marche ce matin, parce qu'en ce moment c'est capricieux, mais bon, on sait la réparer en même temps très très vite, donc c'est pas très grave. J'ai un go. Waouh, ça marche du feu de Dieu. Alors, regardez mon beau sommaire. Attention, soyez pas surpris, je vais refaire un bonjour parce que c'est le bonjour pour le podcast, parce que le podcast, eux, ils ont pas l'intro. La belle intro, là où on dit des bêtises, où on est un peu en mode foufou parce qu'on est sur Twitch. Ok? 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. C'est tous les matins sur Twitch, une grande revue de presse. Quand je faisais de la radio et de la télé, la revue de presse, ça durait 3, 4, 5, 6 minutes, et maintenant c'est 3 heures tous les matins, lundi, vendredi. Ça fait 5 ans que ça dure. Hier, on a fait une petite estimation, ça fait genre plus de 2000 lives en 5 ans. Il n'y a pas que de la revue de presse, mais voilà, je vis ma meilleure vie ici. C'est depuis 5 ans sur Twitch, c'est également en replay sur YouTube, et depuis la rentrée de septembre, c'est en podcast audio. Amis qui nous écoutaient en podcast, bienvenue, merci d'être là sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, merci d'être aussi nombreux. On va commencer par le sommaire, c'est-à-dire je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dans l'actualité ce matin. Alors, soyez pas surpris, il y a un sujet qui va vous sembler un petit peu étrange, j'ai un petit peu hésité à vous le mettre. Vous allez voir. Alors, on va parler de politique. D'abord, donc c'est le sommaire, hein, je vais un petit peu vite. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite des municipales. Hein, je vous l'avais dit il y a quelques jours, on va commencer à parler beaucoup des municipales dans cette revue de presse parce que c'est un rendez-vous important de la vie politique de notre pays. Voilà. Et puis en plus, la figure du maire, les Français, ils sont assez attachés. Vous savez que les municipales, c'est sans doute le scrutin en France où les électeurs votent le plus. Tiens, il faudrait que je vérifie cette info. Je crois que la participation est assez forte. Je dis peut-être une bêtise, peut-être que c'est la présidentielle. En tout cas, les sondages nous disent que les Français sont très attachés à leur maire. D'ailleurs, souvent, les maires font plusieurs mandats et puis jugent souvent leur maire plutôt à ses réalisations et actions qu'à son appartenance politique. Donc là, on a un gros coup de projecteur dans Libération sur les municipales à Paris. Paris tendu, joli titre en vrai. Dans une bataille municipale très ouverte, le socialiste Emmanuel Grégoire est à gauche. Le dossier souligne qu'il souffre peut-être d'un petit déficit de notoriété. Cherche à se démarquer d'Anne Hidalgo tout en assumant l'héritage. À peine exfiltrée du gouvernement, puisqu'elle vient de démissionner du ministère de la Culture, Rachida Dati rêve, malgré son profil clivant et ses ennuis judiciaires, de ramener la ville à droite. Les sondages donnent une légère avance à Madame Dati. Dans ce bras de fer avec Emmanuel Grégoire, puisque il semblerait que ce soit les deux favoris. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est les deux? Il n'y a que deux candidats. Bien sûr que non. Voilà, mais les sondages nous diraient que ce seraient les deux, notamment parce que Monsieur Bournazel, candidat Horizon, lui est un petit peu lâché. Et Hidalgo, ça ne représente pas Evegam. Voilà, tout simplement. Donc je risque pas trop de t'en parler. Et du côté de LFI. Et de comment s'appelle le parti de Monsieur Zemmour, Reconquête, Madame Knafo, et comme du RN, voilà, pour le coup, les sondages donnent ces candidats vraiment très 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 loin du deuxième tour. Mais on en parlera quand même, hein. Sauf que moi, je vous parle aussi des autres villes. Et d'ailleurs, dans cette matinale, je vous ai déjà parlé des enjeux à Bordeaux, à Marseille, à Lille. Quelqu'un me dit, il n'y a pas que ces candidats à Paris, il n'y a surtout pas que Paris. Mais je vous ai déjà parlé de ces autres villes, on aura l'occasion d'en reparler, mais là, le coup de projecteur de ce matin, dans Libé, c'est pour Paris. Justement, je parlais de la démission de Madame Dati du ministère de la Culture pour se présenter au municipal. Hein. Il y a un petit bilan dans Le Monde sur ce qu'elle a fait au ministère de la Culture. Alors, si on en croit Le Monde, c'est pas fou. Démission de Rachida Dati, un bilan marqué par des effets d'annonce. En 25 mois, la ministre de la Culture a délaissé le spectacle vivant. Échoué sur la réforme de l'audiovisuel public, et qui est encore reportée, et bégayé sur le dossier du Louvre, pop, pop, pop. Alors là, je ne sais pas si Madame Dati va lire Le Monde, mais le bilan, selon le journal, n'est vraiment pas positif. Nous, on aime ici s'interroger sur les nouvelles plateformes, les réseaux sociaux, la manière dont l'information et le divertissement circulent aujourd'hui. C'est une vraie révolution qui met à mal le modèle des médias traditionnels, vous le savez, télé, radio et presse écrite. Justement, la Une de l'Opinion, qui est un journal libéral qui est assez proche des entreprises, c'est sur le podcast ou comment les politiques, et notamment en France, vont de plus en plus dans les podcasts. Alors, podcast audio, podcast vidéo. Ce type de programme attire de plus en plus de ténors de la vie politique. Et notamment des candidats à la présidentielle, ils y trouvent quoi ? Du temps, une ressource devenue rare dans les médias traditionnels. C'est assez intéressant. Quoi. Salut Pascal Thom, merci, bienvenue. Légende chez Zira, dans les yeux d'Agathe, génération Do It Yourself au Thinkerview. Tous ces podcasts ont en commun un format long d'une heure ou plus de trois heures d'interview réalisé dans une ambiance tamisée propice aux confidences. Donc on lira ce papier, mais je vous lirai aussi. Parce que j'aimerais bien que, pour ceux qui connaissent ces podcasts, que moi je ne connais pas beaucoup, parce que je manque de temps pour les écouter, ce que vous me disiez de ces podcasts pour ceux qui les connaissent. Ouais. Et puis, regardez, un autre article sur les podcasts politiques, mais aux États-Unis. Il se trouve que pour sa réélection, Donald Trump aux États-Unis, pour son deuxième mandat, Trump est beaucoup allé chez les podcasteurs. Hein, et a délaissé les médias traditionnels. Et donc je crois que c'est son fils qui lui avait conseillé cette stratégie, et ça a cartonné, ça a marché. Et notamment, on a pu mesurer qu'une part non négligeable des auditeurs, plutôt masculins, plutôt jeunes, hommes, de ces podcasts, avaient vraiment massivement voté pour Trump. après l'avoir entendu dans des podcasts. Voilà. Alors, sauf que l'opinion nous explique que Donald Trump ne va plus chez les podcasteurs américains. Comment Donald Trump a perdu les podcast bros, les brothers, ces influenceurs qui l'ont aidé à retrouver la Maison Blanche. Pourquoi ? Ben vous allez voir, parce qu'en fait, ces podcasteurs, plutôt conservateurs, plutôt trumpistes, aujourd'hui critiquent beaucoup Trump sur sa politique de l'immigration, sur sa politique étrangère, sur sa politique économique. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Peux-tu mettre le jingle de Chirac, président de tous les Français ? Allez, c'est pour faire plaisir. Où est-ce qu'il est, mon Chirac ? J'en ai plusieurs Chirac. J'ai celui-là.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Que j'adore. Mais t'as, c'est pas celui-là que tu veux celui-là, toi.
Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français.
Voilà. C'est vrai qu'il est pas mal. Intéressant, cet article. Ouf. Alors. On va parler gangbang. Écoutez, je sais pas comment vous expliquer ça. Bon, d'abord, c'est un article dans Le Parisien. Alors, cet article ne serait pas dans la revue de presse si hier soir, alors je jouais à Valo innocemment avec des amis, il ne m'avait pas signalé qu'effectivement dans Le Parisien il y avait un article d'une page sur les gangbangs. Voilà. Alors moi c'est une histoire que je connais, alors pas cet univers en particulier, mais effectivement, notamment Le Parisien nous raconte depuis des mois déjà les aventures d'un monsieur à Paris qui s'appelle Z, cette lettre pour le désigner dans cet article, qui en fait organise des soirées, donc des gangbangs avec une femme en général, et des hommes qui payent 80 euros pour participer à la soirée. Et donc le gars est toujours en... Alors c'est légal, enfin c'est le débat, ça n'est pas illégal en soi, mais ça provoque la colère des copropriétés, parce que le gars fait ça dans... un peu des espaces, un peu des caves aménagées dans des immeubles parisiens. Alors, non, c'est pas le Z Event. Alors, il est surnommé Z. Ah non, le pauvre, laissez Zera hors de tout ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah non, le Z Event, c'est un autre event. C'est bien mieux. Ah non, alors laissez Zera en dehors de ça, s'il vous plaît. Monsieur Zibre ? Non. Non, c'est pas Z Zemmour. Ah non, ne mêlez pas Zemmour à ça non plus. Donc voilà. Et bon, c'est une histoire qui dure. Hein. C'est pas la première fois que Le Parisien en parle. Je vois pas trop l'intérêt de tout ça. C'est un peu un fait divers, mais bon. Écoutez, bref, on m'en a parlé hier soir. Je vous l'ai mis. Je vous le mets. Bah, qui dure. Oui, qui dure. Et qui... Oui, qui dure. Dure. Oh là là, c'est-à-dire que tous les mots que je vais dire là-dessus. Oh là là, mène à nous cette histoire. Oh là là. Bon, bref, on parlera de ça. Voilà. Gangbang et voisinage. Parce que les voisins ne sont pas contents, eux. Il y a une volonté de tout interdire révélatrice. Non, mais en fait, c'est légal. Hein, c'est pas tout. Alors, je crois que la justice a essayé d'interdire, mais ils n'ont pas réussi. Hein, c'est les voisins surtout qui disent oh, ben, on n'a pas tellement envie de croiser ces messieurs dans le hall avec nos enfants. Quoi. C'est un peu ça, tu vois. Faut inviter les voisins. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Salut Hello. Merci pour ce petit mail. Voilà. Alors, par pitié, quand on lira cet article, ne me partagez pas vos expériences de gangbang. Hier, littéralement, dans le chat, on parlait de ça vite fait. Il y a des gars qui disaient, ouais, alors moi, non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas que... Alors, vos histoires, vous les gardez. Non. Vous gardez vos histoires. Je ne veux pas savoir. C'est une chaîne un peu comme ça ici. Hein. C'est un peu, on est un peu exigeant, quoi. Voilà, gardez vos histoires et vos slips, comme dit Verena. Bon, même si l'histoire est bien, je ne veux pas vos histoires. Voilà. Et on finira sur une note beaucoup plus sympa, je trouve. Les 10 desserts préférés des Français. C'est pas chou, ça. Voilà, c'est une page dans le Figaro. Il y a eu un sondage sur les 10 desserts préférés des Français. Ils ont fait un truc trop mignon. Ils sont allés voir 10 pâtisseries. Bon, parisiennes, ils sont très parisiens. C'est parisien, ça ? C'est que parisien. Ouais, bon. Mais bon, là, c'est marrant parce que certaines pâtisseries, je les connais. Mais on s'intéressera moins aux pâtisseries parisiennes qu'aux pâtisseries préférées des Français. Ce sera l'occasion d'un débat, bien sûr. Parce que autant je ne veux rien savoir sur vos connaissances de l'univers du gangbang, hein, un bon gland en dessert, pourquoi pas ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Autant je ne veux rien savoir sur votre connaissance du monde du gangbang, autant vos goûts en matière de pâtisserie, ça m'intéresse. Voilà. Voilà pour le sommaire. Il est pas beau, il est pas beau mon sommaire? Il est pas beau mon sommaire? Est-ce qu'il est pas beau mon sommaire? Il est beau, non? Hein? C'est plaisir, hein. Il y a de l'actu, hein. Il y a des choses intéressantes. On joue plus à Valo? Non, ce matin, c'est la revue de presse. Ah, merci, Joker. Tu n'as pas mis le même pluriel que le Parisien. Ça va? Ah oui, gang, c'est singulier. Ah oui, attends, j'ai une faute, là. C'est gang singulier et bang pluriel. Oh merde, putain. Putain, c'est affreux. Je crois que c'est comme ça. Fais voir. Oh, quelle horreur de devoir corriger ce genre de... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je vois que certains connaissent bien le sujet, quand même. Hop, hop, hop. Je vois que certains connaissent bien le sujet, quand même. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. On y va? Est-ce que j'ai votre go pour la revue de presse, les beaux gosses? On y va ou on y va ou pas bien? Il n'y a pas de trait d'union? Je suis obligé de googliser gang bang, mais c'est pas vrai. Mais qui est devenu cette chaîne? Mais heureusement que c'est pas fait avec de l'argent public. Hein. Gang bang. Alors, aux États-Unis, c'est gang bang, c'est collé. Alors, gangbang, c'est collé, et en français, c'est séparé. Mais en français, il n'y a pas de petit tiret, normalement. Larousse. Oh là là. Merci, Lilise. Merci, Caillouse. Larousse. Putain, on est dans le Larousse. Ah si, eux, ils mettent un... Ah, la définition, viol collectif, quand même, dans le Larousse. Eux, ils mettent un tiret, eux. Tiens, le Robert. Oula, on a... Ah non. Oh, merde. Moi, je tape Robert, dictionnaire, le Robert. Il n'y avait que des sites X. Heureusement, je n'étais pas en Google Images ou je sais pas quoi. Moi, je tape Robert. Le Robert, quoi. Pornhub, xvideo.com, xxxnxxxvideo, xhamster. Qu'est-ce que c'est? Mais dans quel... Je ferme... Oh, l'historique. Mon historique. Mais dans quelle vie on... Dans quelle vie au monde? Dans quel monde on vit? Oh là 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 là. J'ai fermé. Mais tu tapes, je tape gangbang Robert, dans mon esprit, vous connaissez, je sais pas. On verra. Oh. Bon, on y va sur la poétique. On peut y aller sur cette revue de presse, là, ça part en. Ah, merde. Ça part en autre boudin. On y va? Allons sur la poétique, s'il vous plaît. Dites-moi, allez, Samuel, on y va, let's go. Allez, dites-moi, on y va, s'il vous plaît. S'il vous plaît, please. Please. Ça part? On y va? À fond dans la poétique? Oh non! Bon, allez, c'est parti. Oh non, mais vous êtes insupportable. N'oubliez pas qu'il y a des enseignants, il y a des professeurs qui montent cette revue de presse en classe. Si c'est le cas, si actuellement il y a un enseignant ou une enseignante en France qui monte cette revue de presse en classe, je voudrais m'excuser. C'est pas ma faute, c'est la faute de la commu. Et par contre, c'est quoi ce zoom là? Putain, mais on a perdu le Libé, là. C'est comme un 4 d'acquis qui fait des siennes. Faut encore refaire la... Encore pas... Ah, voilà. Je vais vous mettre ça bien. On voit bien qu'il y a un petit problème, là. Je vous fais ça joli. Ça va être plus joli. Donc, amis enseignants et enseignantes, c'est pas de ma faute, c'est la commu, c'est des fadas, c'est des fous. Voilà, moi, je suis pas responsable de ça. Ici, c'est une chaîne sérieuse. Mais en vrai, il y a vraiment les enseignants qui essaient de montrer comment s'informer aujourd'hui en 2026 de façon un petit peu moderne, quoi, même si le présentateur est un petit peu vieux. Voilà. Même s'il a connu Léon Zitrone. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Premier sujet. Masterclass de titre de Libération comme souvent. Paris tendu, les municipales à Paris. Sachez qu'évidemment, ici, on se penchera sur les municipales dans plein de villes. On a déjà commencé à le faire. C'est dans pas longtemps, hein. Ça s'approche. Paris tendu, Libération dans une bataille municipale très ouverte. Le socialiste Emmanuel Grégoire, il est à gauche. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il est aussi à gauche. Ah, c'est marrant, Libération, ils ont fait. Remarque, ça dépend comment tu regardes. Bon, enfin, bon, enfin, il est à gauche. Cherche à se démarquer d'Anne Hidalgo tout en assumant l'héritage. Anne Hidalgo qui ne se représente pas. Hein. À peine exfiltré du gouvernement, Rachida Dati, qui est à droite, rêve, malgré son profil clivant et ses ennuis judiciaires, de ramener la ville à la droite. Parce que ça fait très longtemps que Paris est à gauche, puisque Madame Hidalgo a enchaîné après Monsieur Delanoé. Hein, et avant Delanoé, c'était qui? C'était Chirac. Je pose la question. Le chat, vous l'avez ou pas?
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas!
Tibéri, tu as raison. Tibéri. Et avant Tibéri? Et avant Tibéri, Chirac? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Tibéri. Ah, l'histoire des faux électeurs, je me rappelle. Tibéri. Et Chirac, d'accord. Alors, lisons le papier de Libé. Paris, Emmanuel Grégoire, du pareil au maire. Oh, Libé. Du pareil au même, du pareil au maire, parce qu'il est issu de l'équipe d'Hidalgo et il se présente. Hein, il peut pas trop critiquer le bilan Hidalgo. Il en fait partie et en même temps, il doit montrer qu'il est différent. Parce que Hidalgo, est, en termes de popularité, c'est compliqué et dire qu'il va faire des nouvelles choses. Mais alors, s'il dit qu'il va faire des nouvelles choses, on va dire mais pourquoi vous avez pas fait avant ? Ah, tu vois ? Donc du pareil au maire et on a un portrait de Dati. En gros, on a deux portraits. C'est plutôt intéressant. On y va ? Paris, Emmanuel Grégoire, du pareil au maire. Très bon titre. 25 ans après la victoire de Bertrand Delanoé, le candidat de l'Union de la gauche, puisque les écologistes se sont ralliés à Emmanuel Grégoire dès le premier tour, hein. Hors LFI, il y a une candidate LFI, c'est, son nom va me revenir, mais assez municipal. Chikirou. Merci. Sonia. Voilà. Et Sarah Knafo pour le parti Reconquête. Et il y a un candidat RN aussi, mais j'ai oublié son nom. Chikirou. En manque de notoriété, M. Grégoire cherche à se démarquer sans renier l'héritage des mandats socialistes. Juste, méfions-nous. Emmanuel Grégoire. Un nom de famille, un patronyme qui est un prénom. Méfions-nous des gens dont le nom de famille est un prénom. Hugo Clément, Samuel Étienne, de nombreux tueurs en série ont un nom de famille qui est un prénom. Hein. Des noms, vous allez voir, ça pop. Émile Louis, bien sûr, un des plus connus, mais il y en a d'autres. Guy Georges, tueur en série. Non, pas Thierry Henry, ça marche pas Thierry Henry. Eh oui. Non, Alain Bernard, non. Mais non, c'est pas des tueurs. Voilà. Donc, voyez. Éric Antoine ? Ah bah non. Bah non, Marc Dutroux, c'est pas un prénom. Édouard Philippe ? Ah bah non, c'est pas un tueur en série. Même s'il est en difficulté dans sa mairie du Havre, hein. Et les communistes pourraient reprendre le pouvoir. Patrick Sébastien ? Mais non, Patrick Sébastien, c'est un animateur de camping. Il fait des petites fêtes sympas. Vous inventez, là. Donc, méfions-nous quand même. Article de Samuel Ravier Regna. Sur la place de la bataille de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris, en ce dimanche pluvieux de fin février, Emmanuel Grégoire a planté un décor minimal, quelques bannières flanquées de son nom et de son visage, un guéridon, un micro sur pied à disposition de quiconque souhaite l'attraper. Waouh, c'est génial, le mec il est en meeting, n'importe qui peut attraper un micro pour lui poser une question. C'est drôle ça. Peu connu du grand public, le candidat socialiste au municipal dans la capitale s'est placé à portée de baffe. C'est pas mal ça. Peu connu du grand public. Il y a un déficit de notoriété, c'est vrai. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont aller dans leur bureau de vote au municipal de Paris, ils vont dire, mais c'est qui ? C'est compliqué. Emmanuel Grégoire. Et on a pris pas mal des baffes. Parce que n'importe qui peut prendre le micro et poser une question. Pourquoi ce qui n'a pas fonctionné hier fonctionnerait demain ? L'interpelle une mère de famille aux grandes lunettes rondes, mécontente du bilan de la ville en matière de sécurité. Imperturbable, le député de Paris renvoie la balle à l'État, c'est pas moi, c'est l'État, en pointant la diminution des effectifs de la police municipale. Mais il esquive l'inventaire de l'action de la mère sortante, Anne Hidalgo. C'est que la question posée sur l'estrade devant les quelques centaines de curieux, quelqu'un disait s'ils étaient 15. Ah bah non, ouais. Place le candidat dans une position inconfortable dont il cherche à s'extraire depuis le début de la campagne, celle de l'héritier, voire du fils spirituel. Homme de base des mandatures précédentes, lui rejette ses étiquettes comme autant de porte-malheur. Je ne suis pas l'héritier, je ne suis pas le fils spirituel d'Anne Hidalgo, nous dit-il. Seulement, les faits sont là. Les socialistes dirigent Paris depuis le triomphe de Bertrand Delanoë en 2001. Donc après, vous me l'avez rappelé, Thibéry et Chirac. Et Emmanuel Grégoire réclame aux électeurs un cinquième mandat consécutif pour son camp, pour la gauche. Discret, peu identifié par les électeurs, hein, c'est ce que je vous disais. Qui m'écrit ce matin, petit SMS? Non, ça me rappelle deux trucs. Donc beaucoup moins identifié que son adversaire Rachida Dati. LR, qui vient de quitter bon gré malgré le ministère de la Culture, menacé sous sa gauche par l'insoumise Sophia Chikirou, donc c'est la candidate LFI. Pour l'instant, elle n'est pas donnée par les sondages au deuxième tour, mais c'est une élection, tout peut se passer. Hein. Madame Chikirou peut se retrouver au deuxième tour, comme Bournazel, le candidat Horizon, comme peut-être Madame Knafo pour l'extrême droite, pour Reconquête. Mais c'est pas ce que disent les sondages pour l'instant. Là, il mène campagne tambour battant. Il fait 10 trucs par jour, chaque jour, heure il est sur le terrain. C'est la seule manière de compenser son déficit de notoriété. Nous dit sa garde rapprochée. D'autant que la réforme du mode de scrutin personnalise la campagne, les Parisiens élisant leur maire plus directement, davantage discrètement qu'avant. Je vous lis en même temps. Pour la première fois depuis l'époque Jean Thibéry, la droite est en mesure de reprendre la capitale. Dans un sondage IFOP publié dimanche, Rachida Dati, qui rattrape son retard et le talonne de 2 points en premier tour, est donnée gagnante dans 4 des 5 configurations du second tour testé. Ouais. Le scrutin est très incertain, voire illisible, avec 5 concurrents pouvant, selon les études d'opinion, se hisser au second tour, puisqu'on vous avait un seuil de qualification de 10%. Donc, on peut avoir au deuxième tour à Paris une quadrangulaire ou une A5. Hein. Petite question, est-ce qu'à Paris, il y a un maire ou un maire par arrondissement? Les deux, GG. Il y a un maire par arrondissement et il y a un maire pour la ville. Ouais. Toujours Paris, me dit No Passenger. Est-ce que tu pourras donner des nouvelles des élections à Mouilleron le Captif? Alors, Mouilleron le Captif, j'ai prévu d'en parler. J'ai prévu d'en parler. Mais Mouilleron le Captif, la situation politique est extrêmement sensible. Il y a des histoires, il y a des affaires à Mouilleron le Captif. Des dossiers. La ville se déchire. Le maire a dû démissionner, remplacé par son premier adjoint, des affaires pas nettes, l'opposition est déchirée, divisée, il y a des scandales de pots de vin, oh là là. Donc il y a des histoires de voisinage. Ouais. Une tragédie sans nom, exactement, Dark Jumper. Donc je vous en parlerai. Mais pas là, pas ce matin. Oui, le maire a des propos militants, enfin, il n'y a rien qui va. Donc, pour la première fois depuis l'époque de Jean Thibéry, la droite est en mesure de reprendre la capitale. C'est intéressant quand même. Dans un sondage IFOP publié dimanche, Dati est donnée gagnante dans 4 des 5 configurations de second tour. Le scrutin est, je vous le disais, très incertain, voire allez-y, parce qu'on peut avoir 4 à 5 candidats qui se maintiennent au deuxième tour parce qu'ils ont dépassé les 10%. Et aucune alliance en vue pour le moment. Alors que la gauche semble souffrir d'une forme d'usure du pouvoir, ça fait longtemps, Emmanuel Grégoire a été de toutes les batailles ou presque de la municipalité précédente, militant du 12e, directeur du cabinet de Bertrand Delanoë, premier adjoint d'Hidalgo pendant 6 ans. Derrière lui, une équipe qui fleure bon la continuité, en dépit du ralliement inédit dès le premier tour des écologistes, donc ça c'est une force pour sa campagne, hein, qui appartenait déjà à la majorité sortante, et celui des anciens insoumis de l'après, qui place un peu plus à gauche le barycentre de l'Union selon une élue. Ah, il y a des anciens insoumis d'une formation qui s'appelle L'Après, qui est aussi avec lui. 7 des 10 premiers noms de sa liste pour le Conseil de Paris ont exercé comme adjoint d'Anne Hidalgo ou maire d'arrondissement. Donc il n'y a pas beaucoup de renouvellement, quoi. Est-ce que c'est le symptôme d'une majorité en bout de course, s'interroge Libération. C'est le pari des soutiens de Dati qui a fait du désir d'alternance. Oui, ben c'est naturel aussi. Parfois, les gens ont envie de changer, quoi. C'est pas faire injure à Madame Anne Hidalgo que de dire que sa popularité, en tout cas, selon les enquêtes d'opinion, était très très faible, quoi. Donc, du désir d'alternance, une formule magique qu'elle promène partout, comme si elle suffisait à former un projet. Est-ce que juste promettre l'alternance, le changement aux Parisiens, est-ce que c'est suffisant, quoi ? En démocratie, explique les adversaires de Grégoire, on ne garde pas le pouvoir 3 décennies dans une ville comme Paris. La gauche parisienne n'a plus aucune inspiration. Aujourd'hui, les gens ont envie de changement, ils aspirent à un nouveau chapitre. Charge David Alphand, porte-parole de la candidate LR. Oh, alors ça, le Squirrel, c'est un coup bas. Hein. Mais au moins, si Dati passe, on est sûr qu'elle va bien travailler à la mairie de Paris, vu qu'elle va avoir un bracelet électronique. Bientôt, elle ne pourra plus s'éloigner de plus de 100 mètres de son bureau. Attends que justice se fasse quand même. Dis donc, le Squirrel, qu'est-ce que c'est que ce... Hein ? C'est fou, ça. Incroyable. Oui, il y a des histoires, il y a des affaires, mais bon. Et ça vous fait rire. Eh ben. Il y a un vent de dégagisme au niveau national et on peut en profiter, espère une autre cadre de la droite parisienne. Un discours inaudible sur le fond, cingle l'écologiste Anne-Claire Bou, quatrième sur la liste de gauche unie, quand Madame Dati tient elle-même la mairie du 7e depuis 2008. En face, c'est le vide intersidéral, dit-elle. Il n'y a pas de vision différente, mais pas de proposition alternative. Alors, du bilan, d'Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire revendiquent de fait l'essentiel. Donc, c'est compliqué. Hein. Il ne veut pas être marqué par l'impopularité d'Hidalgo, mais en même temps, il a fait partie de l'équipe. Il ne se désolidarise pas du bilan. Il trouve que le bilan est OK, mais du coup... Voilà. Dans la ligne de Bertrand Delanoë, la maire sortante, donc Madame Hidalgo, a transformé la ville en profondeur. Le nombre de pistes cyclables a augmenté, comme celui des voies piétonnes, des espaces végétalisés. La place de la voiture a reculé. Au terme d'un long bras de fer politique et judiciaire, Hidalgo a obtenu la fermeture à la circulation automobile des berges de la Seine, qui fait désormais consensus. Voilà. Elle a augmenté la part des logements sociaux et défendu la création d'une police municipale sans accepter de lui fournir un armement létal. Alors, parfois dans le chat, je vois les choses très pertinentes, parfois je vois les choses un peu étranges, sous l'effet ou de l'alcool, ou de la drogue, ou de la fatigue. Et là, je vois M. Sochera qui dit apparemment Sarah Knafo, donc Sarah Knafo, reconquête extrême droite, hein, un peu plus à droite que le RN, hein, rejoindra Anne Hidalgo si elle n'est pas au second tour. Donc, tu es en train de me dire que la candidate de l'extrême droite va rejoindre une socialiste, Anne Hidalgo, qui ne se présente pas au second tour. Tu prends quoi ? C'est de la très très forte quand même. Hein. Attention à ta santé, quoi. Attention à ta santé. Hein.
Waouh !
Elle l'a dit en interview hier. Tu confonds pas avec la candidate... Je ne sais même pas avec quoi tu confonds. Elle l'a dit en interview hier. Mais elle peut pas rejoindre Hidalgo. Hidalgo se présente pas.
Oh là 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 là.
C'est de la bonne, hein. C'est de la très très bonne, hein. C'est de la très très forte. Oh, écoute, je veux même pas essayer de compliquer, de comprendre. Ah, tu voulais parler de Dati peut-être ? Ah, tu voulais parler de Dati ? C'est-à-dire que tu confonds Anne Hidalgo et Rachida Dati ?
Oh là 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 là, putain.
Crevez-moi. Oh de Dieu. Bref. L'ancien premier adjoint promet de poursuivre et d'amplifier ses politiques. On a fait des choses merveilleuses en termes d'anticipation et de radicalité. Nous devons en être fiers, vantait-il début février. Et tant pis, cette filiation le rend comptable des échecs des majorités sortantes, comme la hausse du prix du logement à Paris. Parlons un petit peu des choses qui fâchent. C'est un scandale. De toute façon, le logement en France, c'est un scandale. Qui fait fuir de la capitale les familles et les classes moyennes et populaires. La multiplication des affaires de violences sexuelles dans le périscolaire, ça aussi c'est un truc qui ne va pas du tout. Ça. Qui concerne les attaques de l'opposition, qui est un boulet. Le candidat socialiste a reconnu effectivement des fautes extrêmement graves et promis de tout revoir en cas d'élection. Non, il parle des violences sexuelles dans le périscolaire parisien. Son adversaire horizon, Pierre-Yves Bournazel, en ricane, moquant le candidat du mea culpa, qui s'excuse sur tous les sujets. Que proposer de neuf quand on a déjà gouverné 25 ans ? Ah. Comment susciter un nouvel élan sans être renvoyé au mandat passé. Emmanuel Grégoire se satisferait presque de l'absence dans sa campagne d'Anne Hidalgo, dont l'image publique s'est fortement dégradée au cours de son second mandat. Anne Hidalgo, pas Dati, hein, c'est pour ceux qui suivent pas trop. Hein. Et avec laquelle les relations sont glaciales. Là où Delanoë, qui le couvre de louanges à chaque intervention publique, lui apporte sa popularité intacte et une petite note vintage. Delanoë est un soutien de campagne de Emmanuel Grégoire. Donc Emmanuel Grégoire peut incarner une forme d'alternance de l'intérieur, estime un soutien. Je suis en train de chercher un logement en région parisienne, me dit bêta version Marion. C'est une folie. Je vais sûrement devoir changer complètement de région et de job. Le logement en France, c'est un scandale. C'est un scandale. Le député a vendu dans les médias la promesse d'une rupture de méthode avec Anne Hidalgo, celle de l'hyper-proximité et de l'écoute permanente. Dans son entourage, on regrette une tonalité d'accompagnement qui n'allait pas chez la maire sortante, Madame Hidalgo, notamment en matière d'aménagement de l'espace public. Emmanuel veut être plus dans la dentelle, à réparer les soucis du quotidien, exprime une alliée du candidat. Hidalgo disait « J'ai un projet, on y va », parce qu'il fallait porter de grandes transformations. Grégoire veut construire ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Comme si l'ancien premier adjoint voulait s'ériger en contre-modèle, mais dans la continuité de la maire sortante Moiret des plus proches du terrain, de l'hidalguisme sans Hidalgo, en quelque sorte. Alors, bon voilà, c'est intéressant. Je vous lis sur madame, sur monsieur Grégoire, et après on enchaîne avec madame Dati. L'hidalguisme, ouais, voilà, c'est un petit néologisme sympa. Est-ce que la revue de presse parlera de ton passage aux commissions? Oh, on en a déjà parlé pendant des heures. Pour l'exclamation Zitoun Olive, pour l'exclamation commission dans le chat, tu as le react qu'on a fait. 6 heures, bon courage. 6 heures de react, 3h30 de commission. Force à toi. Lucas et BTC, salut. Merci pour la force que tu donnes à la chaîne. Tu fais semblant de te faire virer pour toucher un gros chèque, puis te faire réembaucher, t'as pas honte. Ça, c'est ce que racontent les comptes d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Cook, Lucas, Seb, BTC. Mais j'ai un petit cadeau pour toi. D'ici demain, je vais te faire un petit live, une petite vidéo où je débunk toutes tes petites affirmations de certains comptes qu'on va mettre en avant. Ça va être la régalade. On va se régaler. T'inquiète. Je pense que tu vas vraiment trouver ça intéressant. Je te fais ça entre ce soir et demain. Parce qu'à un moment, ça va aller. Moi aussi, je peux contextualiser. Hein. Vous avez les mots. Salut Yobiz. Voilà. Alors maintenant, Madame Dati, parce qu'on a vu Emmanuel Grégoire. Rachida Dati, une campagne de guerre lisse. Opposante virulente au Conseil de Paris, Madame Dati était très présente au Conseil de Paris et souvent elle se prenait le bec avec Madame Hidalgo. Elles avaient beaucoup d'échanges assez musclés, mais il y a beaucoup d'articles qui disaient qu'elles se respectaient pas mal toutes les deux tout en se tapant dessus. C'était assez rigolo. Opposante virulente au Conseil de Paris, puisque elle est élue à Paris. Hein. Quel arrondissement déjà? C'est le 7 7e? C'est pas le 8, je suis sûr. C'est pas le 16. Le 7? Le chat? Vous l'avez, le 7. Ah, oh, ils sont forts. Ah, oh, ils sont forts. Le 7. La candidate LR propose un programme sans risque. N'osons pas détricoter les politiques de la majorité sortante. Quoi qu'on pense de Dati, d'ailleurs, c'est quand même un sacré parcours politique. C'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent déjà. Et c'est quand même un parcours politique, quoi. Madame Dati. Cette fois, ça y est, elle est dedans à 100%, prête à se donner pleinement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette campagne, qui représente le combat de sa vie, dit-elle. Après des semaines à tergiverser et à temporiser, Rachida Dati a fini par quitter mercredi, à 2 semaines et demie du premier tour des municipales, son poste de ministre de la Culture pour se consacrer à sa campagne pour devenir maire de Paris. Peut-être le moment d'enclencher la seconde, alors que l'avis général de Dati en campagne, on attendait mieux, en tout cas plus flamboyant, surtout après des débuts en fanfare à grand renfort de vidéos TikTok et 6 ans d'opposition tonitruante au Conseil de Paris. Donc je suis un petit peu déçu de cette campagne qui sera un peu molle de Madame Dati. Pour se présenter comme une maire de Paris crédible, Madame Dati arbore sur le terrain ou en meeting un autre visage que celui auquel elle a habitué son monde. Elle a même une nouvelle voix plus basse et plus posée, dit Libération. Être candidat à la mairie de Paris, c'est sérieux, a-t-elle professé jeudi. Il y a une certaine forme de gravité dans cette candidature. Si sur les plateaux et les réseaux sociaux, elle continue de désinguer à tout va ses adversaires, la Dati, candidate, s'est assagée jusque dans son programme dans lequel elle promet une ville qui respire. Quelqu'un me disait, il faut lire les programmes tout à l'heure. Bah, t'as carrément raison, il faut lire les programmes, bien sûr. Alors elle promet une ville qui respire, des arbres, des plantations en pleine terre, de la place pour les vélos et les piétons. Bah, attends, mais c'est le programme de Anne Hidalgo, ça. Des parkings relais à l'entrée de la ville pour en désengager le trafic. Et même des beaux aménagements bien verts sur les quêtes de Seine piétonnisées. Elle qui a pourtant rué dans les brancards avant et après leur fermeture à circulation. Mais c'est le programme de Hidalgo, ça. Bon. Mais Madame Dati. Bref, pas tout à fait le mantra habituel de la droite parisienne, plutôt vindicative contre la politique vélo de la majorité sortante et la perte d'espace pour la voiture en ville, et généralement rétive aux travaux qui permettent de faire éclore de nouveaux aménagements routiers contre lesquels elle se bat à grands coups de hashtag saccage Paris. C'est vrai que c'est rigolo, ça. C'est assez intéressant. Non, parce que du coup, dans l'opposition, c'était pas tout à fait le discours que la droite tenait, quoi. Mais où est passée, donc s'interroge Libération, celle qui se désespérait il y a 6 ans de vivre dans une ville où vous découvrez un matin qu'il y a une piste cyclable en bas de chez vous. Elle prêche désormais pour préserver la place du vélo à Paris. Mais il s'est passé quoi? Mais il s'est passé quoi? En renforçant et sécurisant les pistes cyclables sur les axes sous-dotés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 19 novembre, au Conseil de Paris, l'écologiste David Béliard, rallié depuis à la liste d'union d'Emmanuel Grégoire, a dénoncé ce virage acrobatique, surtout en vélo, c'est dangereux. Si tu te tournes trop, de la part de celle qui a combattu tout au long du mandat chaque mètre linéaire cyclable, chaque rue aux écoles, c'est des rues protégées, chaque projet pour assurer la sécurité des cyclistes. Je sais très bien pourquoi la droite retourne sa veste maintenant, parce qu'elle a compris, parce qu'elle sait que tous ces aménagements, les Parisiens, les Parisiennes, ils en veulent, et ils en veulent encore plus, dénonce cet élu de gauche. Et Madame Dati est obligée, alors que je sais que ça lui demande beaucoup d'efforts, de mentir et de soutenir ce qu'elle a combattu pendant 6 ans. C'est étonnant, hein. Ça, c'est intéressant, par contre. Et en effet, à lire ses professions de foi, Madame Dati met l'accent sur la propreté et la sécurité, mais propose étonnamment peu de détricotage et de retour en arrière. On ne fait pas de politique avec un rétroviseur, assume une élue LR parisienne. Voilà. On n'est pas dans l'idéologie, on est dans une campagne municipale, ajoute une autre, on veut que les gens aient envie de rester à Paris, de se projeter à Paris. Peut-être même, pensent certains militants, que la droite pro-bagnole et anti-écologie a complètement perdu la bataille culturelle. Évidemment, les mentalités ont évolué là-dessus. Elles ne pourraient pas représenter le même programme qu'en 2020, juge l'un de ses colistiers pour qui le projet de Dati est cette fois plus abouti parce que c'est celui de quelqu'un qui croit en ses chances de l'emporter. Je trouve que c'est un article très intéressant. Dans un paysage d'un premier tour extrêmement éclaté, où elle est prise en étau sur sa droite par Sarah Knafo, chez Reconquête, et sur sa gauche par Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon soutenu par Renaissance, c'est-à-dire le candidat du centre droit, quoi. Il se peut aussi, tout simplement, comme le pense un membre d'un cabinet LR parisien, que la bataille se gagne au centre. En attendant sans mesure qui pète, c'est quoi une mesure qui pète? En attendant sans mesure qui pète, Dati la candidate n'a pas le panache de Dati l'opposante. Au Conseil de Paris, elle a été très contestataire, mais un projet pour Paris, c'est pas si facile. S'amuse une cadre de la gauche parisienne. D'ailleurs, l'ancienne ministre continue de refuser tout débat télé face à ses concurrents et d'esquiver les débats thématiques, même sur la culture, thème pourtant qu'elle devrait maîtriser. Ce qui peut donner l'impression d'une certaine impréparation, voire d'une fébrilité. Bah dis donc. Craindrait-elle d'être invectivée sur ses casseroles judiciaires? Alors qu'elle sera jugée en septembre pour corruption et trafic d'influence passif, accusé d'avoir fait illégalement du lobbying au Parlement européen pour le compte de Renault et de son patron d'alors, Carlos Ghosn, et qu'une condamnation pourrait lui valoir d'être déchu de son siège. Côté Grégoire, on trouve que la rivale n'est pas très en forme, mais même qu'elle est la plus faible sur le fond, niveau connaissance des dossiers, ce qui n'est pas rien quand on sait que Sarah Knafo n'a pas été fichue de répondre à la question du prix du pass Navigo. Dati n'est bonne que quand elle est rigolote. Là, elle n'est pas rigolote parce qu'elle est stressée, analyse un proche du candidat socialiste. Moi aussi, je t'aime, Polar. C'est pour ça qu'elle ne veut pas faire de débat, elle a peur. Un faux procès, selon un militant macroniste rallié à Dati. Quand elle est calme, on lui dit qu'elle est trop calme, qu'on l'attendait plus puncheuse. Et quand elle est puncheuse, on lui dit « Ah bah voilà, Rachida Dati, elle est toujours comme ça. » Voilà. Oui, oui, bah c'est pas drôle de se moquer. Sarah Knafo, effectivement, a estimé que le prix du pass Navigo, c'était 52 euros par an. Bon. Elle s'est un peu trompée. Ça arrive. Je vous lis. Alors, sur Paris. C'est quoi le vrai prix du pass Navigo? Je crois que c'est par mois 52 euros, c'est ça, non? En gros. C'est ça, c'est par mois, en fait. Je crois qu'elle a dit par an. En fait, c'est par mois, je crois. C'est ça, c'est par mois. Oh. C'est plus 90 euros, même. Et on me dit que c'est même plus proche de 90 euros. Donc, effectivement, il n'y a rien qui allait. Ok. Donc c'est genre... entre 900 et 1000 euros par an, quoi. Ah ouais. Ah ouais, 50 euros, 1000 euros. Ah ouais, c'est pas la même, ouais. Ah, c'est presque pareil. Oh là là. Ça peut arriver de se tromper. C'est cher quand même, par contre, 900 euros par an. C'est cher. Tu n'as pas de passe Navigo, Samuel? Si, si, mais sur mon téléphone maintenant. Tu sais, c'est moi, j'emmène mes enfants à l'école le matin. Ouais. Et donc, c'est prélevé directement. C'est incroyable maintenant. Tu as le truc sur ton téléphone, tu fais la reconnaissance faciale là. Et plip! Ouais. Mais du coup, comme c'est automatique et que c'est débité sur ton compte, tu te rends pas compte. Tu vois, tu sais pas combien tu dépenses forcément, quoi. Donc. Mais c'est pour ça que moi je dis à peu près 50 euros par mois. Mais comme je le prends que pour emmener les enfants à l'école, j'ai calculé que c'était. Enfin, je prends pas le pass Navigo justement, moi. C'est un peu au ticket. J'ai pas d'abonnement parce que ça me revient moins cher. Donc j'ai pas 4. Ça vaut pas le coup que je prenne le pass Navigo. Parce que en gros, j'emmène les enfants à l'école le matin et basta. Après, je vais à pied au boulot. C'est l'abonnement Liberté Plus, me dit le chat. Liberté! Les enfants, eux, ils ont un pass, je crois. Tu payes avec l'argent public, du coup? Bah oui, bien sûr. Évidemment. T'inquiète, je te fais une petite vidéo là-dessus dans pas longtemps. La régalade. Donc voilà pour Paris. Et maintenant, on va rester avec Madame Dati. Parce que Madame Dati, alors c'est intéressant, moi je m'étais pas tellement penché sur cette campagne à Paris. On vient de voir un article qui souligne le fait que sa campagne est un peu mollassonne, qu'elle n'est pas très convaincante. Oh, Stephen Hamilton, je regarde. Alors, vous me le laissez, celui-là, il est pour moi. Et vous y touchez pas, hein, pas de ban, rien du tout. Hein. Bonjour Samuel Etienne, bonjour les gauchistes qui parlent de Pass Navigo et qui connaissent même pas le prix, qui se moquent quand on escroque des millions comme toi, on n'est plus à ça près. Merci Stephen Hamilton. Je te conseille cette vidéo qui va arriver bientôt, que je vais produire entre maintenant et demain, pour les explications à tout ça. Tu vas te régaler. Voilà. Et merci du soutien à la chaîne. Qu'est-ce que je disais? Oui. L'article vient de décrire une campagne un peu mollassonne de Madame Dati. L'article souligne quand même qu'elle est quand même donnée gagnante au second tour aujourd'hui. Hein. Et puis maintenant, Madame Dati, eh bien on va regarder son bilan à la culture. Hop. Titre suivant. puisqu'elle vient d'émission du ministère de la Culture, c'est l'occasion d'un bilan. Et là, cette fois, c'est Le Monde, l'article Le Monde qui s'y colle. Démission de Rachida Dati, un bilan marqué par des effets d'annonce. En 25 mois, la ministre de la Culture a, alors l'article est assez sévère, délaissé à 52 euros par mois avec la participation employeur que touche la majorité des Parisiens. C'est pour ça que j'avais le chiffre de 52 en tête. Ah, ok. En 25 mois, la ministre de la Culture a délaissé le spectacle vivant, a échoué sur la réforme de l'audiovisuel public, encore l'audiovisuel public, et bégayé sur le dossier du Louvre. Lisons, c'est un article qui est signé Roxana Azimi, Sandrine Blanchard et Aude Dassonville. Ah, Aude Dassonville, je connais bien. Résistant à la pression du Premier ministre Sébastien Lecornu, Rachida Dati aura attendu le dernier moment pour annoncer mercredi qu'elle quittait le ministère de la Culture pour se consacrer donc à sa campagne pour les municipales des 15 et 22 mars. Habitants de Paris, d'ailleurs habitants de toutes les villes, n'oubliez pas les municipales, premier tour 15 mars et deuxième tour 22 mars. Nommée ministre de la Culture en janvier 2024, elle est restée 25 mois, c'est long hein. À la tête de ce ministère, reconduite dans ses fonctions sous 4 gouvernements, ce qui est assez impressionnant. Merci beaucoup, madame Yvette. Merci, Lilise, merci. Merci pour le soutien. 25 mois, reconduite dans ses fonctions sous 4 gouvernements, si elle a battu le record de longévité de ses prédécesseurs sous la présidence Macron, son passage rue de Valois, donc c'est la rue qui abrite le ministère de la Culture, s'apparente davantage à une succession d'effets d'annonce qu'à de véritables réalisations. Certains disent dans le chat 25 mois pour ne rien faire. Avec une volonté délibérée de faire le tri dans les médias auxquels elle consent à parler, et Le Monde nous indique par exemple que la ministre a toujours refusé de rencontrer le service culture du Monde. Dès son discours lors de la passation des pouvoirs rue de Valois, avec son prédécesseur, elle a affiché sa volonté de rendre la culture accessible à tous et dans tous les territoires. Ça, c'est positif, ça. Le plan culture et ruralité devient sa priorité. Elle n'a pas, de fait, effectivement, lésiné sur les déplacements dans les petites communes mais, qui avaient rarement vu passer un ministre de la Culture. En juillet 2024, son cabinet dévoile un plan à 100 millions d'euros censé développer l'offre culturelle en milieu rural. Ça, c'est intéressant, ça. Vitrine de l'opération, la relance avec une enveloppe de 4 millions d'euros des artothèques, ces lieux de proximité où on emprunte des œuvres. Ça, c'est bien, ça. Astuce politique toutefois, la moitié du plan recycle des dispositifs déjà financés par l'État, des micro-folies au plan fanfare lancé en 2021, et les moyens humains pour faire vivre ces politiques sur le terrain ne sont pas au rendez-vous. Ah, donc l'idée était bonne, mais en fait, le truc n'a pas vraiment été fait, quoi. Okay. Même satisfecit abusif concernant le pass culture, dispositif emblématique de la politique culturelle présidentielle. En octobre 2024, la ministre promet dans une tribune au Monde de réformer cette plateforme numérique destinée aux jeunes, hein, le fameux Pass Culture, qui ne remplit pas suffisamment ses objectifs de démocratisation culturelle. Le budget de la part collective du Pass Culture est raboté, le montant de la part individuelle allouée aux jeunes de 18 ans passe de 300 à 150 euros, et l'engagement de réserver une partie de ce crédit au spectacle vivant n'est pas tenu. Quand elle annonce finalement la généralisation du pass, il ne s'agit que d'inciter tout le monde à télécharger l'application géolocalisée pour connaître les activités culturelles de proximité. Si je comprends bien, elle a plutôt affaibli le pass culture. Le spectacle vivant maintenant. Alors que le spectacle vivant est fragilisé, en partie en raison de la baisse des budgets de la culture des collectivités locales, Rachida Dati snobe deux grands rendez-vous de ce secteur, les biennales internationales du spectacle à Nantes et le festival d'Avignon, le festival de théâtre. Mais elle aurait été l'une des très rares ministres de la Culture à ne mettre les pieds ni dans la cour d'honneur du Palais des Papes, donc c'est à Avignon, ni dans les allées du Hof avignonnais. Si Rachida Dati a préféré se placer en protectrice du patrimoine, en particulier parisien, elle n'a cependant pas pour autant accordé à celui des financements nécessaires. Le 29 janvier, le Canard Enchaîné rappelle que les crédits consacrés aux monuments historiques ont chuté de 24% depuis 2 ans. Un record. Madame Dati a beau jeu dès lors d'affirmer sur CNews après le vol des bijoux royaux en octobre 2025 au Louvre que la sécurisation du patrimoine avait toujours été mise sous le tapis par ses prédécesseurs. Il y a eu beaucoup de communication pour peu d'opérations concrètes. Les logiques politiques étant privilégiées dans nombre de dossiers au détriment de l'intérêt général, c'est Julien Lacaze qui le dit, président de l'association Sites et Monuments. Ce défenseur du patrimoine déplore notamment la destruction à Paris de la ferme urbaine, vaste de 5500 mètres carrés du monastère de la Visitation, pour ceux qui connaissent. Il ne faut pas oublier, me dit Zeldam, les rendez-vous demandés pour Touche pas à ma VF. Elle n'a rien fait pour ça non plus. Ouais. Okay. Sur le dossier du Louvre maintenant, qui a été très médiatisé, qui fait figure de caillou dans sa campagne pour les municipales. Merci John Bagless. C'est marrant tous ces... Pourquoi vous avez tous des prénoms américains, les... Merci. Oh, c'est la même personne qui revient. Et pourquoi toujours des prénoms américains? Pourquoi anglo-saxons à chaque fois? Oui, multicompte, j'ai deviné, mais pourquoi pas Pedro ou Vladimir ou... ah non, pas Vladimir. Je sais pas, pourquoi c'est toujours des prénoms américains, les... C'est bizarre. Ah, c'est notre ami multicompte. C'est mignon. Ah, c'est un générateur de pseudo qui est peut-être un petit peu anglo-saxon. Ou Soledad, ouais, ou Zorro, ouais. Ouais, ses parents étaient fans de Dallas. Ouais. Mais du coup, la prochaine, ce sera quoi? Michael? Ou Johnny? Donc, le dossier du Louvre. Sur le dossier du Louvre, qui fait figure de caillou dans sa campagne pour les municipales, la ministre a soufflé le chaud et le froid. Le jour du cambriolage, elle refuse la démission de Laurence Descartes, qui a démissionné là très récemment. Mais elle annonce ensuite une refonte de la gouvernance sous l'aide de Philippe Jost, sans en avoir informé son propre cabinet, ni l'Élysée. Idée qui fait pchit. Madame Dati finira par obtenir le départ forcé de la patronne du musée le 24 février. C'était littéralement il y a 3 jours. Même enlisement du côté de l'audiovisuel public. Dès son arrivée au ministère, en mettant toute son énergie dans la reprise d'une proposition de loi sénatoriale portant cette fameuse réforme de l'audiovisuel public. Attends. Non, je pensais à faire un petit bot dans le chat, mais ça va me prendre trop de temps. Je vous laisse expliquer aux commentaires, vous savez, sur le rendez l'argent, là, qu'il y a une petite vidéo qui arrive pour tout expliquer. Vous voulez bien? Comme ça me fera un petit peu des vues. Donc, même enlisement du côté de l'audiovisuel public. Hein, donc, la reprise d'une proposition de loi émanant du Sénat portant la réforme de l'audiovisuel public, qui propose de rapprocher France Télévisions, Radio France et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, au sein d'une holding, qui est un objectif du premier mandat d'Emmanuel Macron. On en parle depuis des années, quoi. Oui, hein, une BBC à la française. Le bruit des bottes accompagne le bruit des bottes, Wenfield, mais il est incroyable ton message. Le bruit des bottes accompagne le bruit des bottes, mais il est incroyable ton message. Waouh, joli, j'avoue. L'ancienne garde des Sceaux se livre alors une offensive éclair, donc sur l'audiovisuel public, espérant faire adopter le texte avant la fin de la session parlementaire de juillet 2024. La dissolution l'interrompt sur sa lancée. La chute du gouvernement Barnier en décembre 2024 arrête de nouveau son texte aux portes de l'Assemblée, pas de chance. Avec François Bayrou à Matignon, la nécessité et l'urgence d'une réforme fortement contestée ne paraissent plus aussi évidentes. Quand, le 30 juin 2025, l'extrême droite ajoute finalement son vote aux députés de l'opposition pour retoquer le texte, Rachida Dati le voit aussitôt adopté par les sénateurs en deuxième lecture. Depuis, il n'a plus jamais été inscrit à l'ordre du jour d'un vote définitif. Sans jamais cesser de vanter la radio du service public, la ministre s'est beaucoup employée à déstabiliser son audiovisuel. Ainsi, en 2024, les crédits alloués à la transformation numérique des entreprises, alors ça c'est hyper important, c'est, je vous l'ai dit dans mon propos liminaire devant la commission de l'Assemblée nationale, c'est, y a un sujet qui est essentiel, qui n'est absolument pas suffisamment considéré, c'est de donner des moyens à l'audiovisuel public notamment pour qu'ils arrivent à prendre ce virage qui est extrêmement compliqué à prendre de la révolution des usages en matière d'information et de divertissement avec le basculement des publics des médias traditionnels vers les plateformes et les réseaux sociaux. Et là, j'apprends qu'en 2024, les crédits alloués à la transformation numérique des entreprises, non, pourtant prévus dans le projet de finances, n'ont jamais été versés. Et que l'année 2026 sera encore marquée par une sérieuse baisse des dotations. En parallèle, Madame Dati se fait agressive à l'égard des antennes publiques. Sur France Inter, le 7 mai 2025, elle s'en prend à Sybille Veil, la présidente de Radio France, invitée de C'est à vous, elle menace le journaliste Patrick Cohen de poursuite. À défaut d'avoir réussi à faire adopter sa réforme, Madame Dati a espéré dès l'été 2025 dégager un consensus autour d'un projet de loi inspiré des recommandations issues des États généraux de l'information. Mais le texte visant à sauvegarder le droit à disposer d'une information libre et indépendante n'a toujours pas été dévoilé. Elle part donc sur deux échecs et un seul acquis, la pérennisation à l'automne 2024 du mécanisme du financement de l'audiovisuel public. Imaginez la suppression, après la suppression de la redevance, que maintenant vous savez que c'est une part de la TVA qui est fléchée vers l'audiovisuel public. Ah oui, il y a aussi la restitution des œuvres aussi, vous savez, aux pays dont sont originaires de certaines œuvres d'art culturel. Quand la loi cadre sur ce qu'on appelle les restitutions, annoncée en 2017 par Emmanuel Macron et rédigée par l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak, le vote de celle-ci le 29 janvier en première lecture au Sénat doit davantage à la détermination d'élus centristes ou communistes qu'à un réel engagement de Madame Dati. Quand je vous quitterai, vous ne pleurerez pas, vous m'applaudirez. C'est ainsi que cette dernière concluait ses vœux aux acteurs culturels le 29 janvier 2024. Deux ans plus tard, son départ, estime le monde, se déroule sans effusion. Voilà, je vous lis. Merci le gobelin. Bon lurk. Bah bon, un article du Monde qui... Mais c'est... Alors peut-être que vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord avec la liste du Monde, mais le Monde nous dit que le bilan de Madame Dati au ministère de la Culture n'est pas fou, quoi. Je vous lis, je vous lis. Ok. Bon, vous semblez assez d'accord sur le sujet. Podcast, baby. C'est drôle parce qu'on parlait à l'instant du défi incroyable qu'ont les médias traditionnels à relever pour faire face à la fuite. Alors, c'est un mouvement lent, mais qui est très fort, des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs vers les nouveaux outils, les nouveaux endroits où on s'informe, on se divertit, les plateformes, les réseaux sociaux. Et bien justement, il y a un dossier dans l'opinion, c'est la une de l'opinion, vous voyez, sur le podcast de plus en plus apprécié des politique en France, pour l'exclamation podcast, puisque ici la revue de presse est également en podcast depuis le mois de septembre, et merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Le podcast nouveau confessionnal des politiques, nous dit l'opinion, ce type de programme attire de plus en plus de ténors, et notamment des candidats à l'élection présidentielle. Ils y trouvent quoi ? Du temps, ressources devenues rares dans les médias traditionnels. Vous savez quoi ? Je vais me faire un petit café, parce que le sujet me passionne, et j'ai envie de me caféiner un petit coup. Ça vous va ? J'en ai pour 30 secondes. Je voulais discuter entre vous. Amis de podcast, j'en ai vraiment pour 10 secondes. Tu veux inviter des politiques dans ton stream, ça me gêne ? Non, je fais plus ça. J'arrive. Je l'ai mis à couler. Voilà, c'est ça. Moi, je suis sur un beau projet, là, avec Ben Nevers. Voilà. Le café va couler. Enfin, j'espère il devrait couler, là. Je n'entends pas. Ah, il coule. Vous l'entendez couler ? Incroyable nombre de trolls ce matin. C'est pas des trolls. C'est des gens qui sont mal informés. C'est pas des trolls, c'est des gens mal informés. Ces gens qui n'ont pas les infos, ces gens qui se font manipuler par des gens qui eux-mêmes sont mal informés ou veulent pas faire l'effort de s'informer. Et on va remettre tout ça à plat. Je vais vous faire un petit live là-dessus. Je vous l'ai dit en début de... Ils font trop de raccourcis, c'est incroyable. Alors, c'est pas grave, c'est des amateurs de Mario Kart. C'est pas grave, on a le droit d'aimer le jeu vidéo ça n'est pas mal en soi. Et donc, comme je vous le disais en début de live, je vais faire ce soir, ou plutôt demain, un petit live où on va aller voir les principaux reproches, les principaux accusateurs sur les réseaux. Il y a même des vidéos qui relaient donc les principales accusations qui sont formulées à mon égard depuis mon audition, vous savez, sur l'utilisation d'argent public. C'est un sujet important. Et donc, comme j'ai vu qu'il y avait quand même 3-4 trucs intéressants et mensongers, on va débunk ça. On va débunk, on va faire une petite vidéo. Et comme ça, les gens qui sont aujourd'hui mal informés sur le sujet, je vais leur répondre des choses extrêmement claires. Extrêmement claires. Ouais. Hein, Matt Ben, tu regarderas cette vidéo, Matt Ben, et puis après tu reviendras et puis tu me diras ce que tu en penses. Ok ? Vers quelle heure ? Je sais pas si je vous le fais ce soir ou demain. Ce sera un live. Et après, on en fera un replay. Puis après, je pense que je posterai ça sur le réseau, justement, pour pas laisser ces accusations, ces affirmations sans réponse, parce qu'en fait, c'est pas cool. Ok ? Mais ça va être super simple, hein, parce que c'est super clair à débunker. C'est hyper facile. C'est hyper easy. J'arrive. En vrai, vous allez voir, c'est super simple. Allez, alors maintenant, le podcast pour les politiques, justement. Légende. Et là, je compte sur vous, parce que je suis sûr que certains sont des consommateurs de podcasts, et moi, je ne le suis pas encore assez. Légende chez Zira, je crois que c'est Sam Zira. Dans les yeux d'Agathe, Génération Do It Yourself, ou encore Thinkerview. Tous ces podcasts ont en commun un format long, d'une heure à plus de trois heures d'interview. Bon, c'est ce qu'on aime aussi sur Twitch, d'avoir le temps, c'est aussi ce qu'on aime en podcast. C'est vrai qu'on s'est penché sur le cas de Légende récemment dans cette revue de presse, tu as raison. Réalisé dans une ambiance tamisée, propice aux confidences. Lisons l'article de Christine Olivier en une de l'Opinion, qui est l'Opinion qui nous livre un numéro assez intéressant ce matin. Je trouve qu'il y avait pas mal d'articles intéressants dans l'Opinion du jour, qui est un journal libéral assez proche des entreprises, quoi. Le très secret Édouard Philippe y évoque longuement son rapport à la mort et à celle de son père. Xavier Bertrand s'y confie sur la bataille qu'il livre contre les kilos depuis son enfance. Gérald Darmanin raconte les coulisses du ministère de l'Intérieur avec ses réveils en sursaut au milieu de la nuit et ses secrets qui l'ont rendu paranoïaque. Olivier Faure témoigne du racisme qu'il a subi enfant, traité de bol de riz en raison de ses origines vietnamiennes. Alors, Afrokaiser dit oui, sauf que ces podcasts sont peu souvent avec un contradictoire développé. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est pas animé par des journalistes politiques. Oui, mais c'est insultant. Mais on va en parler, ça, c'est important. Hein. Alors, je vois que certains, par exemple, ont des mots assez durs contre Légende dans le chat. Mitsuhiko, deux points. Ouvre les guillemets, Légende, c'est nul. Qu'est-ce que tu dis ? C'est juste la recherche du buzz, du sensationnalisme. Il fait exprès de faire les sujets pour. Ceux qui pensent que la Terre est plate pour faire le... Oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'ils ont invité un complotiste notamment. Ouais. Je continue. Donc Olivier Faure témoigne du racisme qu'il a subi enfant, traité de bol de riz en raison de ses origines vietnamiennes. Raphaël Glucksmann s'y épanche sur cette chance incroyable d'être père et son rapport à l'identité juive. Voilà. François Hollande décrit le cambriolage de son domicile. Que les voleurs jurent avoir pris pour un squat, et avec l'humour d'Hollande, il déclare « Je ne sais pas comment il fallait le prendre ». Quelqu'un me demandait « Comment est compté le temps de parole ?» Très bonne question de JSMG5 sur les podcasts, il n'y en a pas. Les podcasts ne sont pas encadrés par l'ARCOM ou par le ministère de l'Intérieur pour le temps de parole donné aux politiques. Et je ne sais pas si l'article va en parler, mais c'est aussi un des aspects intéressants des podcasts pour les hommes et les femmes politiques, c'est ce temps de parole n'est pas encadré. Il n'y a pas de règles. Voilà. Contrairement à celles qui s'imposent aux médias audiovisuels. Public comme privé. Mais pas la presse écrite non plus. Hein. Tous les médias ne sont pas encadrés sur la presse écrite, n'est pas encadrée non plus par ces règles qui ne concernent en fait que l'audiovisuel, radio et télé. Et du coup, l'univers Internet non plus. Qu'ils y pleurent ou qu'ils y rient, les anciens présidents, ministres et candidats à la présidentielle ont investi en force les podcasts, ces programmes consommés à la demande sous format d'audio ou vidéo, parce que podcast, longtemps, ça a été audio, mais de plus en plus, c'est aussi vidéo, vous le savez, dans les transports ou en faisant son footing. Parce qu'ils voient un moyen de fendre l'armure dans cet exercice et de se dévoiler dans un environnement bienveillant. Effectivement, ce que quelqu'un disait tout à l'heure, ouais, le problème, c'est que c'est rarement contradictoire avec des animateurs, des présentateurs de podcasts qui sont souvent pas des journalistes politiques et qui laissent un peu dérouler les éléments de langage des politiques. C'est ce que tu voulais dire. Parce que le podcast le permet aussi de renouer avec l'interview longue que la télévision n'autorise presque plus en touchant un public plus large. C'est aussi une réponse, vous savez, à ces interviews hyper courtes. Moi, j'ai bien connu ça quand je travaillais en télé où tu reçois un homme politique pendant 5 minutes. Hein, ou allez, 7 minutes, 8 minutes, allez, soyons fous, 10 minutes, et que tu as 20 questions essentielles à lui poser sur l'actualité. C'est un enfer. C'est un enfer. Légende, chez Zira, Dans les yeux d'Agathe, Génération Do It Yourself, Interview, tous ont en commun justement un format long. C'est ce qu'on aime en podcast, c'est ce qu'on aime aussi sur Twitch, c'est ce qu'on aime aussi sur YouTube d'ailleurs. Je pense que le succès de ces plateformes, c'est aussi parce qu'ils viennent de remplir un vide là où les médias traditionnels audiovisuels, de plus en plus, sans doute pour une logique d'audience, eh bien, sont dans des formats de plus en plus courts. Dans les yeux d'Agathe, par exemple, le podcast de la journaliste de France Info, Agathe Lambray, inauguré par Xavier Bertrand le 30 janvier, voilà, voire beaucoup plus long, 2h30 pour Édouard Philippe dans Légende. L'émission de l'ex-animateur de la radio Énergie passée par M6 et C8, Guillaume Play, et plus de 3h pour l'interview de François-Xavier Bellamy sur la chaîne Thinkerview. Un format qui a convaincu par exemple Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui a ouvert la voie en participant à deux reprises à Légende en novembre 2024, puis en décembre dernier à sa sortie de prison. Tu vois, par exemple, il y a Katouman qui parle de ces youtubeurs américains qui ont interviewé Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, et me dis-tu sans aucune contradiction à son discours. C'est d'ailleurs la seule interview audiovisuelle que l'ancien président Nicolas Sarkozy a accordée. Voilà, donc deux interviews à Légende. Je voulais avoir le temps, s'explique-t-il. Je n'ai pas envie de faire un 20h, je n'avais pas envie de rentrer dans le cirque politique habituel. Peut-être qu'il n'avait pas envie non plus de se retrouver face à un journaliste politique qui allait peut-être plus porter la contradiction. C'est ce que laisse entendre un petit peu le dossier. Le temps, un luxe que ne peuvent plus se payer les élus à la radio ou à la télévision. Il n'y a quasiment plus d'espace dans les médias traditionnels où on permet à un politique de s'exprimer de façon très longue sur sa vision, sur son parcours, explique un conseiller de Laurent Wauquiez. Parce que la politique n'a plus la cote et que les interviews poussent irrésistiblement le spectateur à zapper, les émissions qui s'y risquent encore optent pour des formats courts et très rythmés. Lors des débats télévisés qui ont opposé par exemple les candidats LR à la primaire présidentielle de 2021, les interventions se limitaient à une poignée de minutes par personne. Grâce au podcast, en revanche, on peut parler une heure et demie, apprécie un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui est bien connu, Franck L'Ouvrier. Hein, cela laisse le temps de s'expliquer. Ce qui est important, c'est, comme le rappelle Ayari dans le chat, c'est de ne pas oublier de cliquer sur les liens cliquables. Il faut avoir la ref, mais elle est assez bonne. Parce qu'il y a des liens qui ne sont pas cliquables. Avant, les liens n'étaient pas cliquables. Maintenant, sur Internet, c'est une petite dagounette d'Internet. Hein. Maintenant, il y a des liens cliquables sur Internet, et ça, c'est vraiment le progrès, quoi. Je viens d'arriver. Comment ça, gangbang et voisinage? Ouais, j'avoue, l'article est un peu bizarre, il arrive. La présidentielle, c'est quand même avant tout une question d'incarnation et les podcasts comme les réseaux sociaux permettent plus facilement de montrer qui vous êtes. Abonde un candidat en piste pour 2027. Sur un podcast, vous ne pouvez pas tricher ou être mécanique, sinon ça se sent. Est-ce qu'on doit être d'accord avec cette affirmation? Sur un podcast, vous ne pouvez pas tricher. Le décor est généralement dépouillé, l'ambiance tamisée pour créer un climat propice à la conversation, voire à la confidence. L'invité est assis face à l'animateur devant une table basse, ou même seul devant un fond noir. L'influenceur spécialisé dans la télé-réalité, converti à l'interview politique, Sam Zira, quelqu'un me disait tout à l'heure, mais attendez, je croyais que Zira c'était la télé-réalité. Oui. tranche avec ses canapés et coussins roses où sont déjà assis Olivier Faure, Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire et Yaël Braun-Pivet. Dans l'univers encore balbutiant des podcasts politiques français, Légende fait figure de poids lourd avec 8 millions d'auditeurs revendiqués par mois. Ce qui en fait le plus écouté de France, Légende. Depuis le lancement de l'émission 2022, le succès est fulgurant. S'y sont succédés, outre Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Rachida Dati, Jordan Bardella, François Hollande, Dominique de Villepin et encore plus récemment, Laurent Nunez. Tu vois, Graham dit, je pense qu'au contraire, un politicien rompu au débat se balade dans un podcast. Dernier né des podcasts, celui d'Agathe Lambray, donc journaliste de Radio France, si je comprends bien, a accueilli le 20 février Raphaël Glucksmann. Bruno Retailleau s'installera à son tour dans son fauteuil fin mars, avant François Hollande. La journaliste revendique d'essayer de comprendre ce qui aspire à nous diriger, les ressorts de leur ambition à 14 mois de la présidentielle. Je cherche surtout des moyens, des moments de sincérité avec les candidats et potentiels candidats. La sincérité. Afin de donner à voir ce qu'ils ne montrent pas, soit parce qu'ils le cachent, soit parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le montrer dans un milieu et des formats assez corsetés. Un politique qui s'assoit sur une chaise et qui se raconte, c'est loin d'être nouveau, nuance un conseiller politique. Dans les années 80, Anne Sinclair et Pierre-Luc Séguillon s'invitaient chaque mois dans le salon d'une personnalité publique pour leurs questions à domicile. Au milieu des années 2010, Jean-Luc Mélenchon ou Jean-François Copé s'allongeaient sur le divan de Marc-Olivier Fogiel avant que Karine Le Marchand ne s'impose sur M6 en incontournable des campagnes présidentielles avec une ambition intime. Mais aujourd'hui, cette journaliste politique de Radio France, Agathe Lambray, fait figure d'exception dans un monde dominé par les animateurs. C'est un monde très masculin. Ce qui n'est pas pour déplaire à leurs invités d'ailleurs, cela permet de sortir du champ habituel de la politique des problèmes de parti, explique le maire de La Baule, Franck Louvrier. Les questions ne sont pas les mêmes entre une interview politique et un podcast. Abonde un conseiller LR, l'animateur ne va pas demander à Édouard Philippe s'il va participer à une primaire, par exemple, pas de risque non plus d'être pris en défaut sur une question trop pointue. Tous sont convaincus que le podcast permet de toucher un autre public plus jeune ou simplement éloigné de la politique. On a tort de penser qu'Internet égale jeune, explique un conseiller LR. Aujourd'hui, le podcast, c'est intergénérationnel et tout le monde le sait, quoi. Le monde du podcast qui est quand même un monde fascinant. Hein. Et quel que soit l'âge ou le format, il faut être un passionné de politique pour écouter François Hollande pendant plus de 2 heures. Mais, alors le podcast écouté par des Français de tous les âges. Mais les passages les plus croustillants de ces émissions font ensuite être découpés en extraits, courts, diffusés sur YouTube, TikTok, Instagram. Et c'est là qu'ils sont susceptibles de capter le public jeune qui, lui, a déserté la télévision. Ce qui est certain, c'est que si on se contente de médias traditionnels, on n'a aucune chance de toucher ces jeunes, résume le conseiller LR. Mais attention, l'exercice a aussi ses pièges. Une interview marathon, c'est autant d'occasions de commettre une erreur ou de déraper. Certains podcasts font aussi courir le risque du mélange des genres, tel Guillaume Play, qui accueille avec la même bienveillance Nicolas Sarkozy, et un platiste convaincu que la Terre a la forme d'un kippa sur un gros ballon, la régalade. Fingerview, animé par une mystérieuse voix anonyme. Ah, on ne sait pas qui c'est Fingerview ? Parce que je vois que certains écoutent Fingerview. Ah, De Rodel me dit « si, on sait ». C'est qui ? C'est qui alors du coup ? C'est Sky ? Sly ? C'est qui ? Ben on sait, mais on sait, puis vous me dites pas qui c'est. Son pseudo c'est Sky, oui, mais son nom. Parce que si. Parce que Sky c'est un pseudo, je pense. Comment ça, un gars proche des Russes ? Ben attendez, mais. Si vous me dites qu'on sait qui c'est, vous... Ah, quelqu'un me dit Bertrand Pillet. Parce que c'est important, parce que, vous savez, une des règles en matière d'information, c'est toujours savoir qui vous parle. Toujours savoir qui vous parle. C'est important. Alors, on a le droit d'être... Le pseudonymat, c'est essentiel sur Internet pour les citoyens, notamment pour les lanceurs d'alerte, mais C'est important de pouvoir masquer son identité par le pseudonymat, c'est essentiel, c'est très important. Mais quand tu es un professionnel de la communication, de l'information ou du divertissement, et que tu traites de sujets politiques, par exemple, comme ici, bah, il ne faut pas avancer masqué, bien sûr. On a le droit de savoir qui tu es. Et là, vous me dites qu'en fait, on ne sait pas qui c'est. Ah, il y a un petit truc quand même. Ok, c'est intéressant. Parce que là, par exemple, à la question que je pose toujours, qui nous parle ? D'où vient l'information ? Quel est ce journal ? Quel est ce journaliste ? Vous voyez, bah là, on n'a pas la réponse, par exemple. Ok, c'est intéressant. Bertrand Pillet, sa boîte est Skyfall, il n'y a rien de bien caché. Oui, mais qui est Bertrand Pillet ? Quel est son parcours ? Qu'est-ce qu'il a fait avant ? Quels sont ses biais ? Reconnu ou pas reconnu ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tout ce que tu peux faire avec un média traditionnel. L'Opinion, c'est un journal qui est proche d'entreprise. La Croix, c'est un journal qui a des valeurs chrétiennes. Libération, c'est un journal de gauche. L'Humanité, c'est un journal communiste. Le Figaro, c'est un journal conservateur, etc. etc. Tu vois, mais là, on sait. Qui est cette personne ? Ok. C'est très intéressant parce que du coup, je me rends compte qu'il n'y a pas d'infos, quoi. Ok, très bien. Eh bien, continuons. Mais ça pose une question. Donc, mais moi, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout son contenu. Donc, Thinkerview, animé par une mystérieuse voix anonyme, c'est pour ça que je me suis un peu interrogé, promet des interviews aux perspectives alternatives qui font la part belle aux mouvances contestataires, voire complotistes. Ok. Sam Zira, bon, lui, je sais qui c'est, revendique de voir dans les femmes, dans ce quelqu'un qui vient de la télé-réalité, et les hommes politiques, des candidats de télé-réalité comme les autres. Sam Zira, il estime que les politiques, ce sont des candidats de télé-réalité comme les autres. Au risque de brouiller encore davantage la frontière entre information et divertissement, pour un candidat à la présidentielle, il s'agit donc de trouver la bonne distance et de ne pas se tromper sur l'impact de ses émissions. Alors vous êtes complètement... Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec l'adjectif complotiste qui vient d'être utilisé par Le Monde, quand Le Monde dit que Thinkerview fait la part belle aux mouvances contestataires, voire complotistes. Vous êtes plusieurs à me dire, alors pas du tout. Débat ? Là-dessus, des avis ? Draculos me dit c'est complètement foireux de le qualifier de complotiste pro-russe. Alors, Le Monde n'a pas dit pro-russe, mais c'est intéressant ce que tu dis. Carrément, si dit Manolo. Bien sûr que si, me dit de Red Dead. C'est très clivant, me dit MMG. Il y a des infos sur lui. Alors, vous m'intriguez, moi, je ne connais pas. Attends, je fais une pause. Certains invités sont border, d'autres bien mainstream. On parle de Thinkerview. 1,3 million d'abonnés sur YouTube, c'est une très grosse chaîne. Il y a un site aussi. Et donc, ok. Qu'est-ce que dit sa page wiki pour avoir quelques infos vite fait ? Émission débat française lancée en janvier 2013. Waouh, c'est ancien sur YouTube. Produit de longs entretiens entre un animateur en voix off, identifié sous le pseudonyme Sky. Ok, c'est intéressant. Et ses invités sans montage, d'abord diffusés en direct. D'accord. Thinkerview, ça commence en 2013. Léonard Sojli. Donc là, on a un nom. Léonard Sojli est son cofondateur et président de l'association éditrice pendant 3 ans. Il quitte la chaîne en 2015. Puis devient défenseur du mouvement complotiste Canon en mars 2020. Dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, la chaîne connaît une forte augmentation d'audience, passant de 200 000 abonnés en 2018 à plus de 310 000 quelques mois plus tard. Il y a des dons réguliers, bon, bah ça c'est l'économie de la création de contenu, il n'y a pas un souci. Ok, on s'en fiche. Ok, d'accord, concept et objectif. Ok, orientation politique. Ok, bon, je ne sais pas si les infos sont bonnes, mais on va les lire. L'animateur Sky souhaite rester anonyme. Des indices existent néanmoins concernant son identité. Le 15 novembre 2019, Conspiracy Watch écrit sur Twitter être en mesure d'affirmer que Sky, l'animateur de cette chaîne YouTube, était présent à une récente rencontre avec Sergei Lavrov à Paris et donne le prénom et la première lettre du nom de Sky, précisant respecter la volonté de l'intervieweur de rester anonyme. Oui, je connais Canon. Mais sur la photo accompagnant le tweet, il est possible de lire le nom complet de Sky, c'est Bertrand Pillet. D'accord. Il se réclame de la pensée de Marc Ullmann, ancien rédacteur en chef de l'Express. Il qualifie son projet d'indépendant. D'accord. Il a été décrit comme proche des milieux du hacking. Bien. Les activités de l'animateur ont également suscité des débats, dont Libération, la rubrique Check News, confirme les liens étroits entre l'animateur et la chaîne complotiste Reopen 911. En effet, Sky est de 2008 à 2015 un utilisateur régulier du forum du site complotiste Reopen 911. Quoi. Sky affirme avoir voulu infiltrer leur forum pour comprendre leur mentalité et n'avoir aucun doute sur le 11 septembre, ouais, 9-11. Il dit que Conspiracy Watch fait de la culpabilité par association. Okay. Sky est également partenaire du site Les Crises dirigé par Olivier Berruyer et par ailleurs également présent à une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, en marge du Forum de Paris. C'est qui Sergueï Lavrov ? Diplomate ? Homme politique russe, membre du parti Russie Unie. Ok. Ministre des Affaires étrangères, ok. Ah, c'est l'actuel ministre russe des Affaires étrangères ? Ok. Bras droit de Poutine, vous me dites, ok. D'accord. Ok. La présence de Sky à cette rencontre avec Sergueï Lavrov alimente les accusations d'un tropisme pro-russe décelable, selon cet observateur, dans le choix de ses invités. Par exemple, Artem Studenikov, ministre conseiller à l'ambassade de Russie, Alexei Pouchkov, président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement russe, Xenia Fedorova, présidente de RT France, Yvan Herel, porte-parole de Sputnik. Selon lui, sa présence à cette rencontre relevait d'une simple visite de curiosité. Ok. Pour Le Monde, Thinkerview se veut farouchement inclassable. Des spécialistes de tous bords y défilent, certains détestés par la droite, d'autres par la gauche. Des recalés des poids lourds du paysage du duel français, tels que le chercheur agronome Pablo Servigne, le philosophe Bernard Stiegler et aussi Étienne Chouard, défenseur du référendum d'initiative citoyenne. Ou l'essayiste influent au sein de l'extrême droite, Laurent Oberton. Selon France Info, les personnalités interviewées ont parfois un certain penchant pour les pensées contestataires. Dans Libé, le journaliste Olivier Siran classe la chaîne YouTube à l'extrême droite, considérant que mettre sur le même plan des personnalités d'extrême droite avec d'autres rendait l'extrême droite gagnante, ce que Finterview conteste, considérant l'extrême gauche plus agressive à son encontre que l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Plusieurs comptes les critiquant sur ce point ou les accusant de complotisme ont été bloqués sur Twitter et menacés de poursuites. À cet égard, Conspiracy Watch affirme, même s'il a parfois des invités intéressants, on sent qu'il y a une culture complotico-compatible, qu'on est dans la culture du cachet. Ça, c'est une note très complète. Hein. Okay. C'est très intéressant. Et en tout cas, je vois que ça propose un débat dans le chat qui est très... très vif. Je vous lis. Tidus Pam, ça met sur le même plan des scientifiques renommés avec des travaux reconnus, ainsi que des scientifiques uniquement connus sur les réseaux sociaux sans aucune publication. Et ça tente à faire croire que leurs avis sont de la même valeur. Ça décrit des complots supposés partout, mais ça se cache derrière le fameux « je ne fais que poser la question ». Ce type rencontre par hasard le ministre des Affaires étrangères russe. C'est sûr que ça arrive à tout le monde, dit et vive Zorglob.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
Ok. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. Parce que j'essaie de comprendre parce que je ne connais pas bien Thinkerview. Je ne connais pas Thinkerview surtout. Même pas bien. En tout cas, je vois que vous, vous connaissez par contre. Exit War dit j'aimais bien au début Thinkerview et clairement ils ont viré chambre d'écho full droite. C'est un confusionnisme, dit Sam Cooke, qui met tout le monde sur le même niveau et prétend que c'est ça l'équilibre journalistique. Ah oui, c'est ce que Hugo Clément disait devant les députés aussi. Il disait la rigueur journalistique, c'est pas d'inviter par exemple un platiste et un scientifique du CNRS, quoi. En même temps, enfin, on le met sur le même niveau. Ouais, je comprends. Okay. Sous couvert de pluralisme, me dit Sugar. Ok. Merci, Démon Osban Draconiros. Merci, Mirette01 pour le soutien. Merci, Mana. Merci à toi. Ok. Bon, bah, merci pour cet échange, parce que vous m'avez appris beaucoup de choses. Je le dis premier degré. Alors, je reviens sur l'article. Donc, avec Sam Zira, notamment, aussi. Voilà, qui, lui, voit les politiques comme des candidates de télé-réalité comme les autres, ce qui est un peu surprenant, au risque de brouiller encore davantage la frontière entre information et divertissement. Pour un candidat à la présidentielle, il s'agit donc de trouver la bonne distance. Car si le podcast s'impose comme un format complémentaire aux plateformes comme X, TikTok ou Instagram, il ne remplace pas les circuits traditionnels de l'influence politique. Tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, sinon Sarah Knafo serait élue maire de Paris, ironise un présidentiel. Et contrairement aux États-Unis, il n'existe pas encore ici de podcast d'influenceurs politiques qui donnent leur opinion et ont tellement d'influence que les politiques s'y invitent. Par contre, on va parler des États-Unis dans un instant. En revanche, les élus se bousculent toujours dans les matinales audiovisuelles, ça c'est vrai. Quand les 20h de TF1 et France 2 rassemblent à chaque soir 4 à 5 millions de spectateurs chacun. À l'heure du vote en 2027, le bon vieil écran de télévision risque donc de rester un levier d'influence autrement plus décisif. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la situation américaine où, et l'article suivant va en parler, Donald Trump, par exemple, pour sa dernière élection, a pu bénéficier effectivement de certains podcasteurs, du réseau de certains podcasteurs, et des politologues se sont penchés sur ça et ont estimé que dans la réélection de Trump, il y avait un rôle non négligeable joué par l'audience de certains podcasteurs américains. Je vous lis. Ginger revient sur Légende. Le podcast, c'est vraiment une catastrophe, me dis-tu. C'est une. Il n'y a aucune recherche journalistique, aucun travail de fond, pas d'esprit critique, une cata, surtout vu les sujets et les invités. Subscoral, est-ce que la chaise gamer a-t-elle été remboursée en note de frais par Madame Ernotte? Non, c'est un cadeau de mon épouse et de mon beau-père. Subscoral. Ça c'est la thèse officielle. La thèse officieuse, en fait, c'est ta maman Subscoral qui me l'a offerte. Tu la remercieras encore d'ailleurs. Et je vais sortir une vidéo aujourd'hui ou demain pour répondre à ces fausses accusations sur les réseaux, qui sera une vidéo de régalade. Et j'espère qu'elle te fera rire. Tu ne seras pas très difficile à débunker. Oui, on avait dit pas les mamans, mais bon. Moi, j'aime bien Légende, me dit Chopi. C'est détendu, on apprend plein de choses, même si tout n'est pas intéressant, ça a le mérite de faire réfléchir ou de juste se divertir selon les sujets. Au début, j'aimais bien Légende, me dit Dom Jacques, quand ça consistait à des témoignages de gens du quotidien, puis finalement, on remarque qu'il y a une ligne éditoriale cachée, me dis-tu. Lucky, Légende, c'est une plateforme publicitaire pour laisser des discours se dérouler sans aucune contradiction. C'est très pro-business, me dit Essai Homo Twitch, joli pseudo. Essai Homo. Quels genre les accusations? De détournement d'argent public. C'est ça, c'est sur ça que je vais répondre. Je réponds pas trop aux réseaux sociaux, mais là, en fait, j'aimerais répondre à ces accusations qui sont graves, qui sont un peu infamantes, et comme c'est hyper facile de répondre et de débunker ces 3-4 affirmations sur Internet, on va le faire en une petite vidéo toute simple. Intéressant ce débat sur Légende, en tout cas. Voilà, je suis une grande consommatrice de Légende, me dit Charlie, et je me fais mon propre avis par la suite, en gardant toujours un esprit critique. Il est vrai que Légende, c'est pas fifou, me dit Jadawin, juste un programme où la parole est laissée complètement libre, mais avec jamais de contradiction. Après, la ligne éditoriale, c'est sans équilibre trop marqué que des gens ayant le même courant de pensée. Fais un TikTok pour répondre à ceux qui n'ont que 30 secondes d'attention max à accorder. Oui, alors je vais vous faire un live comme d'habitude un petit peu long pour débunker. Et après, je demanderai à Lucie peut-être de faire un clip. C'est quoi la durée d'attention maximale de certaines personnes sur 30 secondes, vous voulez que je vous résume ça en 30 secondes? On essaiera de faire un petit montage alors. 12 secondes, 7 secondes. Ah ouais, mais là, je vais pas y arriver là. 2 secondes. C'est pas moi. C'est trop chou. C'est quoi un hook, Clama Coquine? Bon, moi, ce que je ferai, c'est que je ferai une explication longue sur Twitch et YouTube. Et sur TikTok, je ferai juste « Bonjour, c'est pas vrai ». Ok. D'accord. Ah, un hook, c'est une phrase d'accroche. Ah oui, c'est bon, on m'a expliqué ça. Ah, le hook. Ok. C'est le grappin, tu captives l'attention dès le début par quelque chose qui choque et tu te retrouves au milieu de la vidéo, par exemple. Ah ouais, un hook. Ben, je demanderais à Lucie de me mettre un hook. Ok. Du mot hameçon. D'accord. Les amis, allons aux États-Unis maintenant. Avec les podcasts politiques, mais à propos de Trump. Voilà. Article également de l'Opinion. Très intéressant. Captain Hook, Captain Crochet. Comment Donald Trump a perdu les podcasts bro, ces influenceurs qui l'ont aidé pourtant à retrouver la Maison Blanche. Encore un article intéressant. Donald Trump n'est pas vraiment du genre à parler de sa vie personnelle. Encore moins des moments difficiles qui ont forgé sa personnalité. Mais en août dernier, face au podcasteur Théo Von, qui s'étonnait qu'il ne boive jamais, le candidat Trump a ouvert son cœur. J'avais un frère formidable qui m'a appris une leçon, ne bois pas, ne fume pas, a-t-il raconté. Je l'admirais beaucoup. Fred Trump Jr. est mort en 80 à 42 ans d'une crise cardiaque liée à son alcoolisme. L'histoire a résonné chez l'animateur de 45 ans qui a confié être à son tour sobre depuis près de 10 ans de la drogue et de l'alcool. L'épisode de ce podcast, publié en août 2024, soit quelques mois de la présidentielle, a recueilli plus de 17 millions de vues sur YouTube avant d'être découpé ensuite en extraits sur les réseaux sociaux. En 57 minutes, Trump et le podcasteur ont parlé de tout, de Fred, donc du frère, de la cocaïne, du golf, de la crise des opioïdes aux États-Unis, du système médical qui force des millions d'Américains à s'endetter, ce qui est un scandale, de l'afflux d'immigrés à la frontière avec le Mexique, des impôts trop élevés, bref, de tous les sujets qui touchent de nombreux Américains, surtout les jeunes hommes. Les jeunes hommes seraient l'essentiel des viewers de ce podcasteur qui s'appelle donc Théo Von. Tout au long de la campagne 2024, et ça on le sait, hein, c'est une information, Donald Trump a enchaîné les apparitions sur les podcasts les plus populaires auprès des millennials et de la Gen Z. Chez This Past Weekend de Théo Von, donc 4,4 millions d'abonnés, mais aussi chez Full Send des Nelk Boys, 2 millions d'abonnés, Flagrante d'Andrew Schultz, 2 millions d'abonnés, et surtout Joe Rogan, expérience, 20 millions de followers sur YouTube. En l'invitant, ces influenceurs, qui penchent plutôt du côté républicain, ont participé à rendre le candidat controversé, sympathique et prometteur auprès de leurs auditeurs qui, pour beaucoup, n'ont que peu de souvenirs de son premier mandat. Le pari, une idée soufflée par le dernier enfant de Trump, Baron, c'est Baron Trump qui a conseillé à son père de délaisser un peu les médias traditionnels pour aller sur ses podcasts, a payé, puisque le 5 novembre 2024, Donald Trump a obtenu le vote de 63% des hommes blancs de moins de 30 ans, 49% des latinos et 35% des noirs. Mais voilà, plus d'un an plus tard, la lune de miel entre le président et les podcasts Brothers a pratiquement pris fin. Depuis son investiture, il a renoué avec les médias traditionnels. Lors des 100 premiers jours de son mandat, il leur a donné plus de 26 interviews. Or, depuis son élection, il n'a fait qu'une seule apparition dans un podcast. Le 2 février dernier, au Dan Bongino Show, présenté par son ex-directeur adjoint du FBI. Trump n'a plus eu particulièrement besoin de ses podcasts bro une fois l'élection terminée. Pourtant, les midterms auront lieu dans quelques mois et son retour chez Joe Rogan ou les Nailbox pourrait aider justement les républicains à rattraper le retard dans les sondages. D'autant que les démocrates tentent depuis un an de conquérir ces nouveaux espaces démocratiques dans l'espoir à leur tour de gagner les voix des jeunes américains. Pourquoi Trump ne va plus dans ses podcasts qui lui ont si bien réussi pour gagner la dernière présidentielle? Question pour un champion. Qui a la réponse? Bon, c'est dans l'article, mais... Oui. Sauf qu'entre-temps, il y a eu dissonance, notamment sur la question de l'immigration. Tout à fait. Tu penses participer à des podcasts pour la campagne 2027? Je pense surtout me présenter en 2027 et gagner cette élection pour l'exclamation 2027 dans le chat. Alors, lisons pourquoi. Parce qu'il est plus occupé, parce qu'il n'est plus invité? Je lis. Pas sûr. Pas sûr que Donald Trump serait reçu par ses podcasts avec la même bienveillance aujourd'hui. Ce qui explique peut-être pourquoi il a abandonné justement ses podcasts. Car depuis un an, bientôt, ses anciens alliés utilisent les mêmes plateformes qui l'ont mené à la victoire pour critiquer les décisions de Trump. D'abord, la gestion de l'immigration. En octobre, Theo Von a fustigé le département de la sécurité intérieure pour avoir utilisé un extrait d'un de ses épisodes dans une pub faisant la promotion des expulsions d'immigrés. En déclarant, le podcasteur, « Mon père a émigré ici depuis le Nicaragua. L'un de mes biens les plus précieux, ce sont ses papiers d'immigration », a-t-il lâché. « C'est vraiment n'importe quoi. C'est complètement dingue. » En fait, ces podcasteurs se sont retournés contre Trump, alors qu'ils sont plutôt républicains. L'affaire Epstein a également animé les esprits des podcasts bro qui en 2024 avaient régulièrement abordé le sujet avec Trump, Jed Evans et autres futurs ministres. Joe Rogan a à plusieurs reprises accusé l'administration d'essayer de manipuler les gens sur l'affaire Epstein, de ne pas protéger les victimes du pédocriminel. La situation semble désastreuse pour Trump alors qu'il affirmait que tout cela n'était pas réel, que tout cela n'était qu'un canular à lâcher le podcasteur. On parle de Joe Rogan. Pour Andrew Schultz, tout est aujourd'hui à jeter dans le mandat de Trump. Tout ce qu'il a promis pendant sa campagne, je crois qu'il voulait le faire et maintenant il fait exactement le contraire, a-t-il fustigé. Je veux qu'il mette fin aux guerres, mais il les finance. Je veux qu'il réduise les dépenses, il continue le déficit et il augmente. Le désamour des podcasts bro pour Donald Trump est une mauvaise nouvelle, car d'un côté, ces influenceurs ont, comme leur nom l'indique, de l'autorité sur leurs auditeurs. C'est vachement intéressant. Salut PRX. Selon le Pew Research Center, 76% des moins de 30 ans suivent l'actualité via les réseaux sociaux. 39% le disent le faire via les podcasts, 41% via YouTube. Mais s'ils servent de source d'information, ces personnalités médiatiques font aussi office de thermomètre pour cet électorat. Parce qu'ils attirent un public adhérent plus ou moins à leurs convictions et préoccupations, on peut penser que si les podcasts bros sont mécontents de Trump, alors leurs fans aussi. C'est le cas. Voilà. Et c'est là où le terme d'influenceur prend tout son sens. Un sondage Economist YouGov de début février révèle que seulement 25% des 18-29 ans sont satisfaits du mandat de Trump, contre 67%. Voilà. Selon Third Way, un think tank politique indépendant, sa cote de popularité est également tombée à 32% auprès des jeunes hommes, particulièrement alarmés par la réduction du budget de la santé, la gestion des dossiers Epstein et l'intensité des raids de l'ICE contre l'immigration. Et sur l'affordability, le grand sujet de ces midterms, les jeunes hommes ne sont pas plus convaincus. Seuls 23%, affordability c'est le pouvoir d'achat, 23% estiment que Donald Trump a eu un impact positif sur leurs finances. Preuve que les jeunes hommes sont des Américains comme les autres, on a beau leur parler différemment, on ne peut pas leur cacher l'absence de résultats. Tu as le replay Kevdin, pour l'exclamation commission. C'est vachement intéressant quand même, hein. T'en pensais quoi? Parce que c'est peut-être ce qui va nous arriver aussi dans quelques années. On dit à tort ou à raison que ce qui arrive aux États-Unis arrive 7 ans ou 10 ans après chez nous. Est-ce que demain, les politiques vont surtout aller chez les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs, les podcasteurs, pour délivrer leur message? Est-ce que ça va avoir une influence sur le vote? Très intéressant. On le voit avec TikTok déjà côté com, dit Sugar. Ça aurait été plus intéressant que la commission te questionne là-dessus. Alors je l'aurais dit, Manolo, mais on m'a répondu un peu sèchement que ce n'était pas le sujet de la commission. Je vous lis. On est déjà un peu dedans, me dit Tatave. Une politique ultra clivante dans une culture du clash et non de la raison. Nawel, il faut que le point d'exclamation et la commission soient collés, sinon tu vas pas l'avoir. C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes assez apaisé parce que vous attendez le prochain article pour vous lâcher. Je sais pas si c'est le bon terme. J'ai l'impression que vous l'attendez celui-ci. Pourtant, j'ai hésité à vous le mettre. Eh ben on va y aller alors. Eh ben on y va. Alors j'ai beaucoup hésité à vous le mettre. Gang bang et voisinage. Alors sans un stream Valorant hier soir, où des amis avec qui j'ai joué en 5 stack m'ont dit il faut absolument que tu parles de ce sujet demain. Je vous vois, certains sont dans le chat. Je ne l'aurais pas mis. Bon, c'est un article dans le Parisien du jour. Voilà, c'est un fait divers, c'est une vieille histoire qui dure depuis des mois déjà. Et puis, mais j'ai senti qu'il y avait une appétence. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est ça qu'on va mettre sur YouTube. C'est cette info qu'on va mettre sur YouTube. Mathieu, je vais te faire un petit shout-out pour YouTube. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la revue de presse. Sur Twitch qu'on fait tous les matins à la matinée Étienne, voilà, et dans toute l'actualité qu'on avait aujourd'hui, vous pouvez voir le sommaire, et bien on a choisi de mettre une info en avant parce que elle me semble pas si essentielle que ça. J'ai même hésité à vous la mettre, mais je sais pas, j'en ai parlé avec des amis hier, ils m'ont dit que s'il fallait en parler, alors je vous en parle. C'est un article dans le Parisien qui nous parle des tensions entre un organisateur de gangbang et ses voisins. Ça se passe dans le 15e arrondissement de Paris. Je ne vous donnerai pas l'adresse. Après sa victoire au tribunal administratif, parce que le monsieur qui organise ces soirées-là a été poursuivi, il a gagné devant le tribunal administratif. Z, on ne connaît que cette lettre pour le désigner, a repris son activité rue d'Alleret. On a l'adresse. On a l'adresse. Bon, merci Parisien. On a l'adresse. Dans le 15e, donc. Il propose une médiation à ses opposants, mairie et préfet de police inclus, d'où le titre, l'organisateur de gangbang tend la main aux voisins. Bon, tant que c'est que la main, j'ai envie de dire ça va. Alors, lisons l'article. Les événements s'enchaînent. Acculé financièrement après plusieurs mois de fermeture et des loyers à payer, en plus des travaux effectués dans ses locaux pour satisfaire aux normes handicapées, Z n'a pas traîné pour reprendre son activité. Et ce, dès le feu vert du tribunal administratif qui a annulé le 9 février l'arrêté de fermeture pris par le préfet de police de Paris. Parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Le préfet de police de Paris a décidé de fermer le lieu. Le propriétaire a porté l'affaire devant la justice et il a gagné. L'agenda est rempli ce jeudi encore avec deux gangbangs proposés aux milliers d'adhérents fidèles de la Factory rue d'Alleret à Paris. Alors gangbang, on va être obligé de définir. Tout à l'heure, on est allé voir le Larousse qui dit « gangbang, viol collectif ». Alors, je vais essayer de trouver une définition. Putain, alors, si un jour, on m'aurait dit que dans le cas d'une revue de presse d'info, j'allais devoir expliquer le gangbang, c'est un sujet sensible quand même. Alors, j'ai une page Wikipédia. Oh putain, il y a des images. Heureusement, je vous ai pas affiché la page Wikipédia. C'est très explicite. Il y a des dessins. Il y a des... Je vous montrais cette page Wikipédia, la chaîne fermait. Alors, le gangbang, dérivé de l'anglais gangbang collé, est une forme de pornographie définie par le Oxford English Dictionary, donc je ne vous montre pas la page, comme une pratique orgiaque avec changement de partenaire. Pour Brigitte Lahaye, il s'agirait d'une forme de sexualité de groupe librement consentie entre une femme et plusieurs hommes. Voilà. Alors que le Larousse dit viol collectif. Et le viol, c'est justement l'absence de consentement, bien sûr. La pratique du gangbang est considérée par le journaliste, essayiste et romancier français Frédéric Joigneau comme violente et visant à l'humiliation ou à la guillemets, démolition d'une femme ou d'un homme par plusieurs partenaires. Voilà. Donc vous voyez que il y a déjà un débat sur la définition. Voilà. Alors, l'article sur Wikipédia parle de l'aspect légal de cette définition. La pratique du gangbang avec un partenaire non consentant constitue un viol en réunion ou viol collectif qui doit être poursuivi, bien sûr, par la justice. Mais la définition précise avec un partenaire non consentant. Et c'est sur ça que, évidemment, joue le propriétaire du lieu dont on parle. Alors, bon, je n'irai pas plus loin sur la définition. Je crois qu'on a à peu près compris le sujet. Je reviens à mon article, maintenant que c'est un petit peu cadré, quoi. C'est important de contextualiser. L'agenda est rempli donc ce jeudi encore, puisque l'interdiction administrative vient d'être annulée par la justice, avec deux gangbangs jeudi, donc c'était hier, proposés aux milliers d'adhérents fidèles de la Factory rue d'Alray à Paris. Comme toujours, plusieurs hommes ayant payé 80 euros l'entrée vont donc pouvoir simultanément assouvir leur fantasme avec une femme seule. Dans la copropriété dont il occupe le sous-sol, les voisins de Z grincent toujours des dents. On ne veut pas de cette activité dégradante de notre immeuble. Les enfants n'ont pas à croiser dans notre hall ces groupes d'hommes à qui on offre une femme en pâture, souffle une mère de famille. On peut comprendre quand même la colère des riverains, quoi. Des copropriétaires ou des gens qui habitent dans l'immeuble. Le tribunal a estimé que cette activité n'avait rien d'illégal. Le tribunal administratif a estimé que cette activité n'avait rien d'illégal et qu'elle ne portait pas atteinte à la dignité humaine ou à la moralité publique. Le juge a d'ailleurs émis un doute sérieux sur les motifs d'ordre public qui avaient été invoqués par le préfet de police pour fermer. Mais Z, le propriétaire, ne semble pas se contenter de cette victoire. Je veux tendre la main à tout le monde et je propose une médiation, dit-il. Un courrier a été envoyé, voici quelques jours, au copropriétaire, au maire d'arrondissement, au préfet de police. Dans ce courrier, son avocat déclare espérer apaiser le climat et les relations de voisinage et vouloir trouver une issue à la situation présente afin de permettre la meilleure jouissance de la liberté de chacun. Oh non. Ah non. Non, non, mais les mots sont importants. Non, non. Le courrier du gars... Non, évidemment que c'était un terme juridique, mais pas là, monsieur Z. Dans cette missive, son avocat... C'est l'avocat, en plus. Son avocat déclare espérer apaiser le climat et les relations de voisinage et vouloir trouver une issue à la situation présente afin de permettre la meilleure jouissance de la liberté de chacun. Et l'avocat, là... Enfin. Mon client... souhaiterait pouvoir exercer sereinement son activité tout en étant prêt à minimiser les éventuels troubles que les résidents subiraient. Alors, ce n'est pas un message de Z, c'est un message de l'un de mes enfants qui sont en vacances chez leur grand-mère. Oh, il m'envoie une photo du chien. C'est Lola. Je lui écris. Attends, il lit pas encore, soit il est trop petit. Comment on fait pour mettre un vocal ? Coucou mon Solal, merci pour la belle photo. J'espère que tu passes de bonnes vacances chez mamie. Je t'embrasse très très fort. Je te fais de gros bisous. Et j'espère te voir très bientôt. On s'envoie des petits messages. Parce qu'il est en grande section de maternelle là. Donc ça commence à déchiffrer les lettres, mais... Petit chou. Donc je reviens à un autre sujet. Le courrier... Mon client souhaiterait pouvoir exercer sereinement son activité tout en étant prêt à minimiser les éventuels troubles que les résidents subiraient, ajoute le représentant de Z, qui rappelle que maintenant il a le droit désormais pour lui. Hein. Mais cette guerre de voisinage n'est pas de celle qu'on rencontre habituellement à Paris. Il ne s'agit pas là d'habitants excédés ou par un restaurant trop bruyant ou malodorant. Le conflit porte sur une activité commerciale adossée à une pratique sexuelle consentie, mais gênant parfois même jusque dans le milieu libertin. Bah attends, je me mets à la place des riverains, je suis d'accord. Là, je parlais de mes enfants. Moi, je n'ai pas du tout envie que mes enfants croisent dans le hall de l'immeuble des gars qui viennent par dizaines à ce genre de soirée, quoi. Je sais pas. Enfin, je... Hein ? Je sais pas. J'ai pas envie. Et la préfecture comme la mairie doivent faire face à de nombreux signalements de riverains scandalisés par ce business basé sur le fantasme d'une tournante dans une cave. Néanmoins, aucune infraction pénale n'a été démontrée et aucune plainte de participante n'a été déposée. Cela ne donne toutefois pas davantage envie aux opposants de Z de venir s'asseoir autour de la table. Je ne veux pas d'une discussion pour trouver un terrain d'entente. Je veux que cesse cette activité portant atteinte à la dignité de la femme. Cela rappelle trop les procès pour viol collectif, estime Philippe Goujon, qui est le maire du 15e. C'est une copropriété privée. Les propriétaires n'ont pas à se retrouver face à des bandes d'hommes qui se promènent dans leur résidence. Les habitants ont lancé une pétition réclamant la fermeture du lieu qui a recueilli plus de 120 signatures. Dans son courrier, Z propose... Vous êtes très nombreux à me dire, mais... Oh merde, j'ai perdu mon micro. Vous êtes très nombreux à me dire, mais... À partir du moment où les hommes payent, c'est de vrai du proxénétisme. C'est intéressant. C'est vrai ça. Pourquoi l'article n'en parle pas ? Vous êtes plusieurs à me dire, à partir du moment où les gars payent, Z devrait être poursuivi pour proxénétisme. Parce que si je dis pas de bêtises, en France, la prostitution n'est pas illégale, c'est le proxénétisme qui l'est. Hein, si je dis pas de bêtises. Parce que la femme paye aussi, vous pensez ? Ou qu'elle n'est pas payée ? Et donc, dans ce cas-là, elle n'est pas considérée comme une prostituée. Je comprends. D'accord. Ah oui, je comprends. D'accord.
Ok.
D'accord. Comme dans un club libertin, me dites-vous. D'accord, je vois la différence. D'accord.
Ok.
Dans son courrier, Z propose aussi un éventuel transfert de l'établissement, déménagé donc, mais vraisemblablement pas sans une compensation financière pour celui qui a investi près de 250 000 euros pour aménager ce local.
Ouais. 250 000 balles. Ouais.
Son déco. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est contractuel la photo là, mais son décorateur l'a un peu arnaqué. Hein. Enfin bon. C'est gonflé quand même, ce chantage financier. Payé pour qu'il parte, s'étrangle le maire. Alors, j'aurais pas utilisé ces gonflés, moi, personnellement, mais bon. Il faudrait le dédommager après toutes les nuisances qu'il a causées. Un habitant a d'ailleurs confié qu'il avait vu la vente de son appartement cassée à cause des gangbangs. Bonjour, je viens visiter l'appartement. Bah écoutez, il me plaît beaucoup. Hein. Bonne exposition, de la lumière. En termes de disposition des pièces, ça me convient tout à fait. J'ai suffisamment de chambres pour les enfants. Oh, je vois que la cuisine a été refaite, c'est magnifique. Par rapport au voisinage, tout va bien ? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'activité commerciale dans l'immeuble qui pourrait provoquer des nuisances. Et là, l'agent immobilier, il est obligé de répondre. Il ne peut pas mentir, parce que sinon, c'est un vice dans la vente. Ah bah si, puisque vous en parlez, il y a des gangbangs au sous-sol. Eh oui, donc là, la vente capote. Non. Pas la vente capote. La vente ne se fait pas. Oh, donc je continue. Les autorités, loin d'enterrer la hache de guerre, sont toujours à l'affût d'une faille pour faire fermer ce lieu. Le service urbanisme de la mairie a récemment déposé un PV d'infraction pour le changement de destination du local. C'est un entrepôt à l'origine. Pas l'endroit recevant du public, dit par exemple le maire d'arrondissement. Est-ce que je le fais exprès ? Bien sûr que non, c'est du live, c'est improvisé. Ah bah non. Vous croyez que c'est écrit tout ça ? Un point de droit qui reste encore à éclaircir, puisque le règlement de copropriété date de plus de 50 ans et ne semble pas très précis sur le sujet. La préfecture de police de Paris a quant à elle fait appel du jugement du tribunal administratif et porté à la connaissance du parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale des faits de nature pénale à l'encontre de la factory. Le truc s'appelle la factory. Malheureusement, pour faire la paix, il faut être plusieurs à le vouloir. Soupir Z. Il y a quand même un acharnement des autorités qui se mettent hors la loi, accusent son avocat. Bon, voilà. Écoutez, vous voyez, sous couvert d'une histoire un peu fait divers, il y a des questions de droit qui sont assez intéressantes quand même. Imaginez l'état des poignées de porte quand ils ressortent tous. Non, Madame Guesmer, je ne répondrai pas à cette question. Non, j'ai assez de dos sur le dos. Salut Noctali. Noctali, comme par hasard, t'arrives au bon moment. Ah, merci Chaoslet, qui je pense habite l'immeuble. Hein. Merci Chao. Ce qui est pénible, c'est que l'article ne mentionne pas que la décision est pour l'heure suspendue à l'occasion d'un référé et qu'on attend le jugement au fond. Je pense que Chao habite l'immeuble. Chao, c'est toi qui n'as pas réussi à vendre ton appart ? Incroyable cette histoire. Ah oui, Mme Guesmer, oui, c'est sûr. En plus, il y avait ça, ouais. Ou alors c'est Z qui est dans le chat. Ou c'est le maire. On ne sait pas. Allez, on termine sur du beaucoup plus léger. On va finir par de la pâtisserie. Voilà. Je voulais quand même terminer sur une note sucrée. Parce que là, on était sur une note un peu salée. On finit par le dessert. Ah oui, sans transition. Bah oui, pas de transition à faire là. Hein, un petit article dans le Figaro, tout mimi, tout mignon, sur les 10 desserts préférés des Français. Voilà, regardez la régalade, regardez ça. Hein ? Delicioso. Celui-là, je le connais, celui-là. Celui-là, je l'ai mangé, je l'ai goûté, celui-là. La tarte flamboyante. Aux agrumes. Ben, je suis un fou de gâteau, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire dans le Figaro ? C'est mignon. Crêpes, tarte aux fruits, brownies, clafoutis, brioche, notre sélection de tables et pâtisseries pour déguster à Paris les douceurs les plus prisées. Voilà. En février 2024, l'Institut CSA dressait pour l'association Culture Sucre le classement des desserts préférés des Français. À chaque recette du top 10, nous avons fait correspondre à un restaurant ou une boutique de la capitale. Alors le côté pâtisserie ou resto de la capitale, on s'en fout un peu parce qu'il n'y a pas que des Parisiens dans le chat. Voilà, ce qui est intéressant, c'est le classement des desserts. Donc, on va aller chercher ce classement. Alors, attends. CSA, Culture Sucre, classement dessert, let's go. Donc là, j'ai fait une recherche sur Gangbang. Je change de recherche. Alors, attends. Sondage, CSA. Dessert. Français. Efface ton historique. J'assume tout, moi. Je l'ai. Culture Sucre. J'ai le classement ou pas ? Télécharger. Oh ! Cliquez sur... Ok. J'ai un ados. Tout autorisé, let's go. C'est un gros truc, ça. Oh là là, le dossier... Oh, le dossier PDF. Oh là, c'est illisible. Il n'y a pas un papier, plutôt ? Institut CSA. Ah, c'est mieux, ça. J'accepte. Le top 5 au niveau national. Ok. Dossier complet en bas de page. Ok. Oh, c'est quoi ce bordel ? C'est fait n'importe comment, hein. Bon, mais c'est pas mal, je vous montre. Ok. Donc, là, c'est l'Institut CSA. Hein, voilà. Les desserts des Français. Ah, c'est région, c'est pas région. Attends. Voilà. Bon, les Français aiment les desserts. Voilà, au niveau national. En 1, la crêpe. Le top 5 des desserts au niveau national. En 1, la crêpe. En 2, la tarte aux fruits. En 3, le brownie. Allez, la Bretagne. Il y a un petit mec qui est nul. En 4, le clafoutis. En 5, le tiramisu. Après, il y a le top des desserts par région. Si vous êtes dans le nord, votre truc, c'est les brownies. Voilà. Si vous êtes dans l'ouest, c'est les crêpes. Bon. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Île-de-France, dessert préféré, crêpes. Le brownie Centre-Val de Loire, la crêpe. Dans le sud, c'est marrant, ça. L'invasion des crêpes. Et dans l'est, ils sont plutôt ou clafoutis ou tarte aux fruits. Pourquoi la crêpe Qu'est-ce que j'ai dit sur de la crêpe? Moi, je suis breton, donc je valide, mais je suis hyper bizarre, non? La crêpe à la farine de blé noir aux galettes aurait pour origine la Bretagne du blablabla, blablabla. Sa version sucrée apparaît au 19e, blablabla, blablabla, farine de froment. Et selon ce sondage CSA pour Culture Sucre, elle est aujourd'hui devenue le dessert préféré des Français. Elle arrive en tête aussi bien chez les CSP+, que chez les employés et les ouvriers. Ok. Ce succès est aussi à mettre en perspective au rapport de la crise du pouvoir d'achat, son faible coût en faisant un dessert de réassurance. La crêpe a séduit la majorité des Français pour diverses raisons. La crêpe, c'est d'abord la convivialité par excellence, sachant que 61% des Français aiment passer du temps en cuisine et préparer des desserts pour profiter des moments de partage qu'ils procurent avec la famille, avec mon amoureuse et mes enfants. On a un appareil, tu sais, qui fait des mini crêpes. On le met au milieu de la table, tu vois, tu fais la pâte, et puis chacun fait des mini crêpes, des crêpes parties, tu vois, et on met ce qu'on veut dessus. C'est très, comment dire, convivial. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas cher. Sa simplicité d'exécution constitue... Ah oui, c'est facile à faire aussi. Constitue aussi un attrait majeur pour les Français, parce que si on arrive à faire la pâte à crêpes, c'est que c'est pas dur à faire, hein, parce que je peux vous dire que nous, en termes de cuisine, c'est chaud, quoi. La crêpe nécessite peu de temps, peu d'ingrédients, dont le sucre. C'est un dessert ou goûter très accessible qu'on peut agrémenter selon ses goûts. Ah ouais, c'est un peu le dessert à la maison, quoi. C'est pas vraiment le dessert que tu prends forcément au resto, quoi. À part dans les crêperies, quoi. Ok. Elle a aussi un côté créatif, on peut en faire des gâteaux, des aumônières, blablabla, blablabla. Ok. Et sinon, chez les jeunes, c'est pas la crêpe, c'est le brownie. 18-34 ans. C'est brownie. Et chez 18-24 ans, t'as le cookie en deux. Ok. Les plus de 50 ans, qu'est-ce qu'ils mangent les vieux comme moi? En numéro 1, t'as quoi? Bah t'as la crêpe, mais après t'as la tarte aux fruits en numéro 2. Numéro 2. Voilà. Chez les 50-64 ans. La tarte aux fruits, elle est même première chez les plus de 65 ans. Non, pas la soupe. Voilà. Le clafoutis, deuxième du top 65 ans et plus. Le baba au rhum, très fort chez les personnes âgées aussi. Bon. Ah, c'est par région, là. Ok, d'accord. C'est rigolo. Et donc, du coup, on a un article du Figaro avec les 10 desserts préférés des Français. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une pâtisserie en restaurant parisien en lien avec le dessert, quoi. Bon, là, ça intéresse que les parigots, bon... Tête de veau. Bon, mais en même temps, c'est mignon quand même. À chaque fois, il y a un petit mot sur le dessert, regardez. La crêpe, par exemple. Voilà. Avec son histoire, l'histoire de la crêpe, d'où ça vient et tout. La tarte aux fruits de Bontemps. Alors, moi, je la connais, ça. C'est aux agrumes. C'est celle-là. Bontemps, c'est une pâtisserie parisienne. Héritière des tourtes du Moyen-Âge, la tarte aux fruits se généralise à partir du 18e siècle. Une bonne tarte aux fruits demande de maîtriser la pâte. Sablé, feuilleté, sucré, brisé, qui doit rester croquante. Voilà. Mais aussi utiliser des fruits de saison, naturellement sucrés. De nombreuses recettes, tatin aux pommes, aux fraises, alors j'ai faim, aux citrons sont entrées dans le répertoire français. Le brownie, d'où ça vient le brownie? Les puristes pourraient bien enrager, mais ce dessert star de la culture américaine a définitivement gagné le cœur des Français. Un gâteau au chocolat dense et fondant qui découlerait de la mode des brownies banquets. Dans les années 1880 aux États-Unis, durant lesquelles on mangeait des aliments marrons. Brown. Ah, les brownies banquets, on mangeait des aliments marrons. Brown. Ça vient de là. La recette qu'on connaît aujourd'hui au chocolat, elle daterait du début du XXe siècle. Le clafoutis. C'est un cousin du flan. C'est comme le pastéis de nata. C'est comme un petit flan, un petit peu. Merci le petit Charlie. Merci Rolling Fleur de Paix. Cousin du flan.
qu'on estime né au 19e dans le Limousin. Le clafoutis, dont le nom pourrait découler de l'occitan clafir, pour garniture, clafir, garniture, clafoutis. Si, pastiche de nata, c'est un petit flan. Ah bah si. Attends. Ah bah si. Oh si. C'est un petit flan portugais. Attends. On va le retrouver ce truc ou pas? C'est un truc d'internet. C'est où ça? J'essaie de le retrouver, c'est ça ou pas?
Clap.
On était en séjour à l'hôtel. Elle a ouvert le mini frigo de la chambre et elle a pris une barre chocolatée.
Bonjour Jackie.
C'est ça ou pas? C'est pas ça. C'est où sur internet pas acheter des natas là? Petit flan, tu sais. Quelqu'un là? C'est un clip ça, c'est un truc rigolo. C'est une opération Portugal? Ah bah je l'ai. Ah bah je l'ai. Alors, la rêve de pastéis de nata, c'est un petit flan portugais.
Ça, c'est des pastéis de nata. Doucement.
Attends, je te le remets plus fort. Attends, on se la refait. C'est exceptionnel. Je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas ce que vaut le film. Mais la séquence est exceptionnelle. On se le refait, c'est un petit plaisir. Écoutez, c'est chou. Bon, certains disent que le film n'est pas fou. Opération Portugal, je sais pas, je l'ai pas vu, mais en tout cas, maintenant vous avez la ref, voilà, je l'ai, vous l'avez, incroyable. Pastéis de nata, c'est pour ça que je disais, ouais, bah, c'est la foutue, c'est un petit flan, c'est comme pastéis de nata, quoi. Un petit flan, quoi. Un mini flan portugais, quoi. Bruno Sanchez, exactement. Voilà, donc le clafoutis, dont le nom pourrait découler de l'occitan. Tu vas venir l'article, là? Allez, l'article! J'ai un faux contact ou quoi? Faut encore que je change de carte d'acquis? Ça coûte 10 000 balles ces trucs-là. Ras-le-bol. Saloperie. Oh bah il est parti. Ah voilà. Voilà. Icône des gâteaux ménagers, clafoutis. Son appareil aux œufs et au lait vient recouvrir des fruits frais, les plus souvent des cerises. Cerises dont on aurait gardé les noyaux. Ah, faut garder le noyau. Sauf à vouloir offenser les spécialistes de cette honorable gourmandise. Il faut garder les noyaux. Pour le goût? Ah bon? Oh bah attends, mais v'là, et pour les dentistes aussi, parce que tu v'là les plombages, ça claque! Ouais. Ouais, pour bien se péter les dents. Ouais. La brioche. Ah non, c'est quoi non? La brioche! Brioche! La brioche aussi, très bien notée. Né en Normandie au 15e siècle, hein, auprès des populations aisées. Logique, puisque cette pâte levée à la mie filante doit tout son prestige à sa quantité de beurre astronomique, au moins 400 grammes pour un kilo de farine. Poi. Tu rentres dans une pâtisserie, tu dis, allez, je suis raisonnable, je vais pas prendre de trucs trop... Je prends une brioche. 400 grammes de beurre pour un kilo de farine. Ok. Le tiramisu. 12% des Français le mettent en top 1. Le plus célèbre des desserts transalpins. Porte bien son nom, littéralement, remonte-moi. Quoi? Tiramisu, ça veut dire remonte-moi? Sa gourmandise, mélange de sucre, œufs, café, mascarpone, savoyardi, boudoir et cacao n'est-elle pas en mesure de soigner toutes les détresses? Oh, merci Drakeos pour le raid. Merci ami Drakeos, ami de l'actu. On est en train de parler du top 10 des desserts selon les Français. Avant, il y avait un article sur gangbang et voisinage, mais vous aurez ça dans le replay. Bah, désolé, vous l'avez raté. Voilà. Son origine est toutefois récente et contestée, mais on s'accorde à le situer à Trévise, en Vénétie, en 1970, avant de faire le tour du monde. Le baba au rhum. Le baba au rhum. Tier list des desserts. Après, je vous ferai ma tier list après. C'est à Stanislas Leszczynski, ex-roi de Pologne, exilé en Lorraine au 18e, qu'on doit cette icône des pâtisseries des bistrots. Trouvant son kouglof trop sec, il demande à son pâtissier Nicolas Storer d'y remédier. Il y met du vin liquoreux, Malaga, crème pâtissière, let's go! Et c'est parti, le baba au rhum. C'est fou, hein. Alors qu'en fait, c'est baba au Malaga. La mousse de chocolat. La mousse au chocolat. Le chouchou des enfants. Oh, quand j'étais ado. Quand j'étais ado en pleine croissance. C'est-à-dire que à 12 ans, je faisais cette taille-là, puis j'ai plus grandi. Je pouvais manger 2 pizzas au restaurant. Et je finissais avec une mousse au chocolat. 2 pizzas! Dont une 4 fromage. Et après, une mousse au chocolat. Ah, c'est l'adolescence, ça. Le chouchou des enfants. Celui qu'ils apprennent encore souvent à faire en tout premier. Voilà, la mousse au chocolat serait née sous Louis XVI, imaginée par son chef suisse Charles Fazzi. Au cours de l'histoire, se succèdent 2 versions. L'une où l'air est incorporé, principalement par la crème montée. L'autre où c'est le blanc d'œuf battu qui s'en charge. Avec un chocolat de caractère, elle séduit également les adultes. Voilà. Ah, la mousse au chocolat, c'est bon, la mousse au chocolat. Ouais. Je vois que certains me parlent de la mousse au chocolat de la grand-mère, de la maman. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 une mousse au chocolat un peu épaisse, là, de resto, tu sais, la cuillère, elle tire dedans, là, tu sais. Aïe, 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 aïe. La crème brûlée. Comment ça, la mousse de Z est excellente? Oh non, non, non. Si la Catalogne et l'Angleterre se disputent la paternité de la crème brûlée, elle est bien l'un des desserts phares de la cuisine française. Codifiée en France au XVIIe, elle se caractérise, cette crème aux œufs servie froide, par sa croûte caramélisée, autrefois au tison ou au fer brûlant. La tarte au citron. Ça, c'est bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Inventée en Angleterre à la fin du XVIIIe. Version meringuée au début du XIXe. Incroyable. Allez, à moi. Tier list. Tier list. Mon dessert préféré. Moi, je suis un mangeur de gâteaux. Je ne peux pas passer devant une pâtisserie, une boulangerie parisienne sans m'arrêter comme un chien d'arrêt à la chasse, quoi. Devant du gibier. Je suis un dingue de gâteaux. Alors, beaucoup moins maintenant parce que je fais quasiment plus de sport pour pouvoir plus triber. Et donc, le gâteau a quasiment disparu de ma vie, mais de temps en temps, je craque. D'où le petit bedou. dans le désordre. J'ai été gâteau au chocolat, moins maintenant. Tarte aux fruits, tarte aux agrumes, tarte aux fruits rouges. Un petit crumble, mais alors pas trop sucré. Les cookies trop sucrés. Souvent, les cookies sont trop sucrés. J'aime quand il y a de la cannelle. J'aime les pâtisseries anglaises, par exemple. La tarte tatin, oui, mais avec de la cannelle, alors. Je suis pas trop Paris-Brest, éclair, religieuse, tout ça. Voilà. Ou alors, pacheté, je dédrate. Hein. Le petit flan, là. J'aime bien ça. En vrai, j'aime bien les flans. Un flan, ça peut être une dinguerie. Le flan industriel, le truc qui te tape le ventre, qui te fait mal, hein, ça va de ça. Et parfois, tu vas dans des restaurants ou des pâtissiers, des flans, des dingueries. Flan, j'adore le flan. Surtout les petits flans. Comment ça s'appelle les petits flans en Portugal, hein? Pacheté et genata. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que j'aime encore? Millefeuille? Non, je dirais pas le millefeuille. Ouais. Non, à tiramisu, panna cotta, non. 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 Les glands, j'aime bien, ça va. Je suis pas très crème pâtissière, tout ça. J'ai dit religieuse, Paris-Brest. Mais les glands, j'aime bien la crème à la vanille. Alors, les glands, je pourrais en manger tous les jours. Ça, j'aime bien. Frangipane, je suis un mangeur de frangipane. Voilà, la frangipane. Hein. Le problème de la frangipane, c'est direct dans le bide. Hein. En Bretagne, j'avais trouvé des crêperies quand j'étais jeune. Avec ma famille, on allait dans les crêperies. Ça faisait des crêpes à la frangipane. Une crêpe. La douceur de la crêpe. Moi, je suis un mangeur de crêpes et de galettes, vous imaginez bien, tu vois. La douceur de la crêpe. Hein. L'onctuosité de la crêpe. Avec le sucre, tu vois. Et à l'intérieur, de la frangipane fondue, quoi. Poi, 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 poi. Carotte cake, j'adore. Ouais. Oh là là là. je connaissais une crêperie qui faisait la... Ils appelaient ça, c'était rue de Fougères à Rennes, en face de la fac de droit. Elle a fermé, elle n'a pas trouvé de repreneur, cette crêperie, c'est tellement dommage. Ils avaient une crêpe, c'était la noisetine, et l'autre, l'amandine. L'amandine, c'était une crêpe à la frangipane, quoi. Et la noisetine, c'était pareil, mais avec des noisettes. Et j'en prenais deux, vous m'en mettez deux, l'une sur l'autre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, je peux plus manger ça maintenant. Je fais avec mon métabolisme de vieux là. Je fais plus de sport. Sinon, je ressemblerai à une petite boule. Mais ah là là là, les souvenirs, les souvenirs. Ah, je me damnerais pour regoûter ça quoi. Kouign-amann, non, trop sucré. Délicieux le kouign-amann, mais un croc et puis c'est fini quoi. Croissant aux amandes, le kiff pour les mêmes raisons. J'adore l'amande. Gaufre, je suis pas un mangeur de gaufre. Le financier, bien sûr, le financier, pas trop sucré, toujours. Quoiqu'une gaufre de Liège. Une gaufre de Liège. Une gaufre de Liège. C'est une dinguerie. Oui. Oui. Pavlova, c'est bon. Pavlova, c'est bon. Pavlova, c'est bon. Pâtisserie au thé matcha, j'aime. Ouais. Voilà, caraméliser la gaufre. Ouais. Liège, exactement. Exactement. J'adore. Et le phare breton, ça va. Mais le phare, c'est l'inverse, tout. C'est pas assez sucré.
Tu vois.
Merci les amis. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin pour la revue de presse. Prochain rendez-vous. Normalement, une revue de presse des bonnes nouvelles le samedi, c'est revue de presse des bonnes nouvelles. Mais le problème, c'est dans les tweets de cette semaine, normalement, tout au long de la semaine, dans la revue de presse, je mets des articles de côté. Vous savez, pour la revue de presse des bonnes nouvelles. Le lundi, je mets des trucs de côté. Le mardi, je mets des trucs de côté. Le mercredi, je mets des trucs de côté. Le jeudi, je mets des trucs de côté. Le vendredi, je mets des trucs de côté. Et puis le samedi matin, je lis encore la journée, je mets des trucs de côté. Là, j'ai une actu là. J'en ai une pour l'instant. Parce que celle-ci, je voulais la mettre demain. Les gâteaux là. Hein. Sauf que vu l'actu juste d'avant, je pouvais pas terminer cette revue de presse sur le gangbang. Je ne pouvais pas terminer cette revue de presse sur le gangbang. Je vous ai rajouté le gâteau pour finir sur une note un peu sucrée, quoi. Et donc du coup j'ai une info pour la revue de presse des bonnes nouvelles. Donc on va voir. Ce qui est sûr, c'est que ce soir ou demain, je vous fais un petit live pour répondre aux accusations fausses qui circule depuis quelques heures, quelques jours là, sur Internet à la suite de mon audition sur la commission d'audiovisuel public de l'Assemblée. On va aller prendre et on va se régaler, je vous le promets, mieux encore qu'avec des gâteaux, mieux encore qu'avec Pache de Genata, hein, le petit flan là portugais. On va se régaler parce qu'on va aller voir ces affirmations, des tweets, parfois d'élus, parfois d'influenceurs, parfois de citoyens, et on va expliquer calmement et gentiment pourquoi ces gens disent du caca. Voilà. Et de façon très simple. Et très carré. Voilà. On va gangbang les déformations de propos. Alors, je le dirai pas comme ça. On se fait ça ce soir ou demain, en tout cas la régalade. OK ? Comme ça. Voilà. Au moins, quand les gens seront confrontés à ces affirmations, ces assertions, bah, ils auront ma réponse, mon pendant, qui ne sera pas compliqué à trouver sur Twitch, sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok. OK ? Est-ce que je peux vous faire des bisous ? Est-ce que je peux vous souhaiter une bonne journée, un bon vendredi, une bonne fin de semaine, un bon week-end ? Parce que c'est le week-end ce soir, bande de BG. Et on se retrouve ce soir ou demain, enfin, imminemment sous peu, quoi. Et là, je vais retrouver ma petite sœur. Parce que ma petite sœur qui n'est pas parisienne, eh ben, elle est parisienne aujourd'hui. Et elle est avec son amoureux, avec son Bertrand de Marie, voilà, qui est un beau-frère formidable. Et ils viennent manger à la maison, à 12h30, là, il est 12h14, et j'en suis trop content. Voilà. Donc, des bisous. Je suis trop heureux de retrouver ma petite sœur, trop heureux de vous avoir retrouvé ce matin, et puis je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ok ? C'est qui Attends, je vais peut-être faire un raid quand même. Qui est en live ? Tiens, bah oui. Qui qu'on a ? Ouais. Ah bah tiens. Ouais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, je crois que c'était un marathon. Non, c'est un... Je crois que c'est quelqu'un qui courait dans un marathon de jeux vidéo. Okay. Je regarde qui est en live. Je regarde qui est en live. Il y a littéralement 50 personnes que je suis qui sont actuellement en live. C'est impressionnant. Oh, merci pour les bonjours à la petite sœur. Bah, moi, j'ai bien envie qu'on aille voir... Si on allait voir Sakor pour le remercier d'être venu à la maison dont ça me plaît la dernière fois. Il a été super cool avec K.O. Hein, c'est une bonne idée. Pour le remercier parce que c'était trop cool de l'avoir. On va voir Sakor qui est sur quoi? Qui est sur... wow! Ah, c'est pas la nouvelle extension de World of Warcraft? Qui vient de sortir ou qui est sur le point de sortir? C'est pas une histoire comme ça? C'est ça? À minuit? Eh ben voilà, bah Sakor, il est sur découverte de World of Warcraft. Venez jouer avec moi. Hashtag ad, hashtag midnight, hashtag wow. C'est une OP. Mais oh, ça, c'est incroyable. Attends, mais il a le jeu avant tout le monde? Attends, ça a l'air incroyable. Attends, je vais aller voir. Ok, c'est parti. Let's go. Le raid se charge. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Belle fin de semaine. Bon week-end. Et je vous dis à très vite. Ah, c'est temps-ci ce matin? Ouais, c'est incroyable. Bon, bah, je vais aller voir. Des bisous. Et bisous à la Miss Accord. Ciao.